quoi le moment le plus difficile de ton aventure?
Waouh, le moment le plus difficile.
Vraiment le plus gros down.
Celui où j'ai eu le plus de mal à me relever, où je me suis posé beaucoup de questions, même au fait d'entreprendre sur le côté société justement, c'est que ça m'arrive souvent de me réveiller en pleine nuit, quelquefois avec une idée, tu sais, d'un rêve qui à la base est un rêve un peu bizarre, mais en fait finalement il va se concrétiser et il y a une partie de ce rêve-là qui va m'aider et nourrir une idée plus tard. Donc quand t'arrives à que le clip soit vraiment en synergie et vraiment en symbiose avec le son, bah les gens passent un bon moment parce qu'ils aiment bien la musique, mais ils aiment bien aussi le clip, donc du coup ils regardent le clip pour entendre la musique, mais ils entendent la musique aussi pour voir le clip, et après ça fait sa vie en télé, etc. Et du coup fait que naturellement le clip fonctionne quoi.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Damien Maubert. Salut Damien, comment tu vas ?
Salut, eh ben ça va bien, merci de me recevoir.
Écoute, je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. C'est Lucas Rouillet qui m'a fortement recommandé à la fin de son épisode de te rencontrer et d'échanger avec toi. Donc maintenant qu'on est là, eh ben on va pouvoir discuter de tout ça.
Merci à lui de m'avoir recommandé.
On fait une petite bise à Lucas. Un grand merci au Solier aussi qui nous accueille pour cet épisode. On est dans un lieu très cool, rue Salomon de Causse, dans un super hôtel. On avait déjà fait une collab avec eux en septembre dernier. Ça s'était très bien passé, du coup on renouvelle cette collaboration, donc on est très content d'être ici aujourd'hui. Damien, c'est ton anniversaire aujourd'hui, donc il faut quand même te souhaiter un très bon anniversaire.
Merci beaucoup.
On l'a jamais fait sur 140 épisodes, donc on est obligé de le faire.
Voilà, let's go.
donc c'est un bon moyen de commencer l'épisode. Damien, t'es réalisateur, producteur, t'as aussi créé un média, t'as pas mal d'activités qui tournent globalement autour de l'audiovisuel et de la culture. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que t'as grandi.
Dans quel environnement j'ai grandi? Eh ben écoute, j'ai grandi dans la campagne. Je viens des Deux-Sèvres, dans le Poitou-Charentes, entre Niort et Poitiers, pour ceux qui connaissent pas. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis d'où je viens, on est en mode « les Deux-Sèvres ». Bon, La Rochelle à une heure dans les terres à peu près, voilà.
Dans le centre.
Voilà, pas dans le centre non plus quand même.
Mais une carte de...
voilà, on mettra une carte juste là. Et en gros voilà, donc j'ai grandi dans les Deux-Sèvres et voilà, donc famille modeste, voilà, ma mère est professeure des écoles et mon père est agent de fonction dans un collège. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans un cadre voilà proche scolaire.
Ouais.
Et loin de tout ce paysage médiatique, vraiment plutôt avec des étoiles dans les yeux en parlant de cinéma et d'audiovisuel en général. Et voilà, de proche de ma famille, de mes amis, avant de m'éloigner plus tard pour aller réaliser mes rêves, tu vois.
Est-ce que tu te souviens de tes premières passions, justement? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que pas du tout?
En fait, plus loin, je me souviens, ouais, franchement, c'est le cinéma. J'ai toujours été passionné du cinéma, j'ai toujours été passionné d'audiovisuel. Mes parents m'ont vraiment porté vers la culture parce que depuis que je suis tout petit, en fait, ma mère, mon père, ils m'amenaient vraiment voir des spectacles. J'ai vraiment consommé du spectacle, des concerts. Je suis allé au cinéma assez régulièrement. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir accès au monde de l'art. Et donc très vite en fait m'est venue cette passion de la réalisation de par du coup beaucoup de visionnage. Je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit et notamment beaucoup de reportages de voilà qui montraient les dessous du showbiz, du cinéma, des paillettes, etc. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait rêver. Et au-delà du coup de la partie artistique, comédien, du coup j'aimais beaucoup interpréter. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis amené à commencer à me lancer sur YouTube très jeune, genre vers 10-11 ans, enfin très jeune. c'est l'époque où YouTube venait d'arriver, là où aujourd'hui, maintenant, il y a plein de gens à Dijon qui...
Mais à l'époque, c'était forcément...
Mais c'est vrai que oui, bah là, YouTube, bah, on passait de Dailymotion à YouTube à ce moment-là, on suivait pas mal de créateurs sur la plateforme, et ça m'a donné moi aussi envie de me mettre en scène. Et au-delà, bah, de me mettre en scène d'un point de vue acting, et j'ai beaucoup apprécié, en fait, justement, la mise en scène et la partie réalisation. Et c'est de là que, du coup, ça, la trame s'est dessinée pour me mener au métier de réalisateur plus tard, quoi.
Ouais, hyper hyper intéressant. Tu te souviens un peu des films qui ont pu te marquer dans ces années-là?
Oh, les films qui m'ont marqué. C'est marrant, moi j'ai que des dessins animés qui me viennent en tête à cette époque-là. Mais je regardais beaucoup de dessins animés à l'époque. Évidemment, j'ai consommé les Simpsons, j'ai beaucoup regardé Foot de rue, j'ai regardé beaucoup de dessins animés quand je rentrais du collège. Et après, je suis passé quand j'ai commencé à regarder les films. En 2009, je me souviens, il y a un film qui m'avait marqué, c'était Avatar. qui était arrivé, genre là, un gros blockbuster. Évidemment, c'est pas un grand film d'auteur, etc. et tout, mais c'est un film qui m'avait marqué, je me souviens. Et il y avait Inglourious Basterds de Tarantino. Qui m'avait scotché, je me souviens, à l'époque. J'étais en mode, waouh, c'est fou, ça mélangeait plein de nationalités différentes, et en même temps, la mise en scène, c'était un truc à l'américaine, mais en même temps, il y avait du fond, et j'avais adoré ce film-là. Et ouais, je pense, voilà, c'est un peu les films quand j'étais petit, que j'avais regardé, qui m'avait bluffé. Avec qui j'avais bien aimé en film français Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. C'est un film qui me touche beaucoup et qui aujourd'hui m'inspire toujours aussi. Ce côté un peu synergie de bande, d'amis et qui vieillissent ensemble et avec toutes les problématiques et la dramaturgie qui va autour entre les différents personnages. Du coup, voilà, je pense que je dirais ces films-là.
Très clair. Comment est-ce que tu as vécu tes études? Est-ce que tu te voyais directement faire de l'audiovisuel? Ou est-ce que t'as eu des doutes sur ta trajectoire, entre guillemets?
Non, franchement. Alors déjà, faut que je dise, franchement, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'a jamais bridé sur la partie artistique. Parce que je sais que on ressort souvent en mode c'est compliqué d'aller vers là, quelquefois la famille n'y croit pas et tout. Moi, ils m'ont témoigné qu'en vrai, ils avaient peur. Mais ils me l'ont témoigné après que j'ai réussi à rentrer, j'ai fait un BTS audiovisuel à Cannes. Donc du coup, comment sont passées les études? Très bien, au soleil. Franchement, c'était très cool. J'ai vraiment bien aimé mes deux années d'études, du coup, dans le sud à Cannes. Et oui, j'ai eu la chance, de pouvoir y aller. Mes parents m'ont pas bridé du tout là-dessus. Ils m'ont même encouragé. Et donc sachez que c'est une chance d'avoir pu faire les études que je souhaitais et d'avoir été pris aussi. Mais c'est marrant parce que du coup ils m'ont témoigné par la suite, c'est que une fois que j'avais fini mon BTS et j'ai commencé à travailler, c'est ma mère qui m'a dit un soir, je crois de fête de Noël, elle m'avait dit en mode c'était quand même pas gagné, parce que quand tu nous as dit que tu voulais faire du cinéma autour, j'ai dit bon, c'est une passion, ça va lui passer. Et en fait, quelques années plus tard, il continue, il veut faire des études dedans, ok, très bien. Puis après, du coup, ce qui l'avait rassuré, c'était le côté BTS, parce que elle-même, elle avait fait un BTS informatique avant de passer tous les examens pour devenir professeur des écoles, etc. Et du coup, elle savait qu'en sortie d'un BTS, t'avais plus de probabilité de trouver du travail, bien que ça serait sans doute pas réalisateur, mais que ça me permettrait de toucher le monde du cinéma, peut-être par la technique, peut-être par d'autres mondes artistiques, mais peut-être des petites mains du cinéma. Et donc ça s'est très bien passé pour moi, et donc du coup maintenant j'ai eu la chance quand même, vraiment je le dis, ça c'est un truc, ça me fait vraiment plaisir, genre je suis très fier de ça, d'avoir eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragé pour aller dans cette direction-là, quoi.
Ouais, c'est hyper hyper précieux pour la suite, quoi.
Ouais, mais c'est tout le monde n'a pas cette chance-là. Genre il y a des gens justement où la culture ça parle pas du tout à leurs parents, financièrement ils ont même pas le moyen de d'amener faire des études. J'ai des amis proches justement qui rêvaient aussi de faire les mêmes études, mais en fait eux c'était déjà bloqué, que même s'ils étaient pris à leur école à Cannes typiquement, en fait leurs parents n'auraient pas pu suivre financièrement pour prendre le logement sur place, etc. Donc je sais que j'ai eu de la chance sur ça. Donc c'est pour ça que je leur remercie. Merci les parents, voilà.
Petite dédicace. Hyper hyper intéressant. Tu travailles directement après ton BTS, du coup.
Ouais.
Je sais que tu enchaînes beaucoup d'expériences de comédien, d'intermittent du spectacle, de chef opérateur aussi, si je dis pas de bêtises.
J'ai fait un projet. J'ai pas fait chef opérateur vraiment. Je le fais vraiment après. Chef opérateur, je l'ai plus fait côté télé, du coup. Mais c'est pas exactement la même chose.
Donc finalement, tout un tas de métiers dans l'audiovisuel. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'ai envie d'être réalisateur, producteur?
Alors que l'audiovisuel, producteur, c'est hyper, ouais, large, bien sûr, c'est vaste, c'est large. Honnêtement, déjà réalisateur. Depuis que je suis tout petit, en fait, je voulais être réalisateur. C'était le métier qui me fascinait. C'est aussi le métier qui est le plus mis en avant dans les métiers de l'ombre. Donc du coup, naturellement, c'est un peu le métier où très vite, quand tu vas vouloir être du côté de la caméra, tu vas vouloir soit être cadreur ou chef op, du coup. Soit être réalisateur, ou alors tu vas vouloir être comédien et c'est que par la suite que tu découvres les autres métiers. Moi, j'ai toujours aimé ce côté un peu artistique que peut laisser toucher le monde de la réalisation, à la fois le côté technique et du coup un peu palpable de la caméra, etc., en choisissant les plans que tu peux, bah, comment tu vas réaliser ton film, et en même temps, bah, le côté où souvent, bah, beaucoup en France, en tout cas, beaucoup de réalisateurs sont scénaristes, beaucoup de réalisateurs sont aussi les auteurs de clips ou que ce, enfin, de beaucoup de créations. Et donc, j'aimais bien cette idée-là où il y avait un peu ce grand écart-là entre à la fois être proche de la technique qui m'intéresse, ce côté-là vraiment de mettre en image, de voilà, d'avoir tout un corps technique, de techniciens qui vont pouvoir mettre en image des idées en fait à la base, et avoir justement ce côté idée artistique, donc pouvoir mettre en scène, imaginer tout simplement un décor, une situation et une scène, quoi. Donc j'ai toujours voulu vraiment faire de la réalisation. Qu'est-ce qui a fait que j'ai délaissé la technique? Bah en fait, c'est que quand je suis arrivé sur Paris, j'ai commencé, comme tu l'as dit, en fait, à faire un peu tout. J'ai commencé sur un premier clip professionnel où j'étais régisseur et je faisais, alors c'est pas un cliché, mais je faisais vraiment ça, je faisais des sandwichs triangles en mode croque-monsieur pour le midi et pour le soir. Et je me souviens, j'étais très frustré. Je savais très bien que je n'étais pas fait pour bah continuer de faire régisseur, etc. Parce que j'étais frustré. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être à la face, donc devant, bah là où se tourne l'action, comme on dit dans le cinéma. Du coup, d'être vraiment à la face, de voir ce qui, enfin la création. Et moi, comme je venais d'arriver, j'étais régisseur, on m'envoyait faire du ventousage. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, le ventousage, c'est en fait, y a une scène qui se tourne aujourd'hui, mais demain ou ce soir, on doit tourner une autre scène, un autre endroit. Et donc, il faut quelqu'un qui aille réserver les places de parking pour que les camions puissent se garer, pour que l'équipe technique puisse tourner, bloquer la rue, et on appelle ça du ventousage. Et donc je partais avec mes petits plots pendant que le tournage se passait ailleurs, et je devais aller dans Paris à des endroits pour bloquer des places de parking. Ultra frustrant. Ultra frustrant parce que dans ma tête, moi, je viens d'arriver, j'ai fait des études de cinéma, on a touché à la technique, je suis dedans, et là, j'arrive sur Paris, je me dis, let's go, mon premier tournage, c'est bon. Et en fait, je me retrouve à l'autre bout de Paris, alors que le tournage est là-bas, et quand il arrive, on me demande d'aller faire des sandwichs, aller faire des courses dans à côté. Du coup, c'était un peu frustrant, mais ça m'a donné de l'énergie de me dire, ok, donc déjà, je suis pas fait pour ça, je vais faire plus de la technique ou je vais être plus à la face. J'ai fait un petit peu de technique et en fait très vite je me suis retrouvé en relation en fait avec d'autres producteurs qui m'ont dit, mais tu veux faire de la réalisation, le problème c'est que si tu fais trop de choses, on va pas savoir sur quoi t'axer en fait, qu'est-ce que tu fais. Et donc du coup c'est pas clair pour nous, donc on va pas t'appeler en tant que réalisateur, on va t'appeler peut-être en tant que technicien, mais l'autre boîte de production va t'appeler en tant que du coup réalisateur, et l'autre va t'appeler en tant que régisseur. Et de là je me suis dit, bon, ça a cogité, je continuais de faire comme ça tout de même. Et en fait, il y a un jour, justement, je me suis retrouvé avec une productrice qui m'a présenté à un reste d'assistants de production, etc. Et à la salle, elle m'a présenté de manière en mode, je vous présente Damien, premier assistant caméra, réalisateur. Et elle avait fait ce move-là qui moi, m'avait marqué ce jour-là. J'étais en mode, ah oui, c'est vrai que c'est vraiment pas clair, en fait. Genre, c'est vrai que tout ce qu'elle a dit, bah oui, je le fais un peu, mais en même temps, c'est pas clair. Et de là, je me suis dit, go, je suis que réalisateur. Alors du coup, je ne l'étais pas et je me prétendais pas du tout réalisateur à ce moment-là, mais je me suis dit, je n'accepte que des projets de réal. Et comme je sais que, bah, je dis j'accepte là, mais je sais très bien que rien va rentrer parce que personne sait que je suis réalisateur à ce moment-là. Du coup, donc faut se faire connaître. Donc je vais aller de l'avant pour aller rencontrer, démarcher des artistes pour essayer de faire mes premiers projets. Et ça a été essentiellement des clips pour, bah, du coup, bah, tranquillement me lancer dans la réalisation et me faire un nom en tant que réalisateur exclusivement.
C'est vraiment comme une boîte en fait. C'est, tu travailles ton positionnement et de
exactement.
Et tu le définis.
Non, mais ça,
en fait,
ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Pour que ce soit hyper clair pour les gens qui veulent potentiellement travailler avec toi.
Ouais, ça, savoir quel service tu proposes, quoi, ouais. En fait. C'est juste que là, ça fonctionne différemment, mais oui, tout à fait. C'est
surtout au démarrage, tu vois, d'une carrière où effectivement le fait de faire trop de choses, bah du coup, on n'est plus pas du tout identifié. Et effectivement, à un moment donné, faut faire un choix, surtout au début, pour potentiellement élargir son arc. Et ce qui est
bien sûr, bah c'est plus simple de percer dans un domaine,
exactement,
et d'élargir après. Ce que j'ai d'ailleurs fait par la suite.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que, mais en même temps, c'est très compliqué, quoi. Parce que c'est vrai que le monde de l'audiovisuel, surtout de la réalisation, se dire, je vais faire que de la réalisation. Bon, bah du coup, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, ce qui est cool, c'est que quand je suis arrivé sur Paris, j'avais un métier alimentaire qui était dans la télévision. Du coup, je travaillais dans la télévision à RMC. Je travaillais sur l'émission Bourdin Direct avec Jean-Jacques Bourdin, du coup, et je faisais l'émission tous les matins en chef opérateur, justement, mais plus côté télévision. Parce que je dis côté télévision parce que c'est vrai qu'en télévision, chef opérateur, c'est pas exactement le même métier que en cinéma ou en clip, où le chef opérateur va être aussi le directeur photo, là où en télé, c'est un peu différencié. Et en gros, bah du coup, je m'occupais des caméras, en gros, de la colorimétrie, des lumières, en gros, plateau sur les émissions de Jean-Jacques Bourdin. Et ce qui est cool, c'est que bah, j'étais intermittent du spectacle. Je le suis toujours, d'ailleurs. d'ailleurs, et ça m'a permis d'avoir déjà un revenu plus stable en ayant l'intermittence du spectacle, de faire des émissions de manière plus régulière, de rencontrer du monde et de pouvoir me permettre en parallèle de ce travail-là, de me dire ok, je vais me lancer à fond dans la réalisation côté clip. Je vais moins communiquer sur le fait que je fais de la télévision. De toute façon, en communiquer là-dessus, c'est un peu plus compliqué dans le sens où je suis technicien en télévision, mais en soi, je vais pas mettre tous les jours la même poste, de la même régie, de la même émission. Il y a pas de communication à faire là-dessus, et de toute façon les autres employeurs vont pas venir me voir pour autant. Il y a un monstre de techniciens sur le marché. Donc je me suis mis à fond sur la réalisation, et c'est comme ça que de fil en aiguille, comme une boîte, comme tu disais tout à l'heure, tu fais grossir ta propre boîte, et on vient te voir par la suite pour ce que tu fais et ce que tu es aussi, quoi, et représente.
Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement du statut d'intermittent du spectacle? Je crois que c'est la première fois qu'on en parle sur 140 épisodes, même si on a reçu, tu vois, par exemple, une Constance Arnoux qui a déjà joué sur un film sur Netflix que tu connais peut-être. Mais on n'avait pas parlé, tu vois, de ce statut d'intermittent du spectacle qui est particulier comparé à toutes les formes d'entrepreneuriat. Mais qui est une forme d'entrepreneuriat?
Alors du coup, l'intermittence du spectacle, c'est unique au monde et en France. Du coup, on a ça en France et c'est vraiment unique au monde et vraiment, génial, en fait, surtout pour entreprendre dans la vie artistique, que ce soit pour les comédiens, parce que du coup, c'est beaucoup de risques, comme on pouvait en parler tout à l'heure un peu, mais genre, c'est des métiers où c'est vraiment en dents de scie, tu vas pas pouvoir travailler tous les jours. Alors certains vont pouvoir faire le parallèle un peu au freelance, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le cinéma qui sont aussi en freelance. Mais le problème du freelance, c'est que il y a pas cette stabilité et ça te permet pas d'avoir un revenu tous les mois. Et donc du coup l'intermittence a été créée en France et c'est un régime donc qui fait que si on arrive à cumuler un certain nombre d'heures travaillées en une année, donc qui est de 507 heures. Lorsqu'on arrive à travailler ces 507 heures déclarées, alors je dis bien déclarées parce que justement, dans le monde du cinéma, ou même des courts-métrages, des films, des clips, ça arrive régulièrement qu'il y a un tournage de 8 jours, mais déclaré que 4. Parce que manque de budget, le clip, ça serait bien le tourner sur 2 jours, mais on a un budget un peu serré, donc du coup, on va déclarer que tout le monde que sur une journée, etc. Et donc, il y a beaucoup de magouilles qui se font comme ça, donc c'est pour ça que je dis bien, 507 heures, du coup, officiel, du coup, où t'as vraiment tes heures déclarées. Et dès que t'arrives à atteindre, du coup, ces 507 heures, tu as droit d'adhérer au régime d'intermittent du spectacle. Parce qu'il y a des intermittents du spectacle qui ne sont pas adhérents au régime parce qu'ils n'ont pas leurs heures. C'est d'où le problème des heures qu'on entend souvent parler, même à la télé, un peu, quand on dit, c'est la galère d'être intermittent, c'est ceux qui n'ont pas leurs heures et qui essayent de les avoir. Et quand tu les as, du coup, ça te débloque, du coup, des aides. Donc tous les mois, t'as, en fonction de combien tu as travaillé, donc plus tu as travaillé et selon combien t'es rémunéré sur 8 heures, du coup t'as un calcul un peu complexe qui est fait du coup de la part de France Travail maintenant, qui du coup détermine en gros un revenu minimum que tu toucheras et dont tu es assuré tous les mois. Donc ça peut aller quelqu'un qui fait 507 heures, il a 1200 euros et il y en a certains, s'ils travaillent plus, ils ont des plus gros salaires, ça peut être 2000, 2005, etc. et qui sont assurés, même si on ne travaille pas entre guillemets tout ce mois-ci. Et donc du coup ça permet évidemment à beaucoup d'artistes, que ce soit vraiment dans la musique ou dans le cinéma, d'entreprendre des projets. Parce que moi du coup encore une fois, genre tous ces projets que j'ai fait au début où j'étais bénévole, j'avais la chance d'avoir du coup pu faire mon intermittence. Et pouvoir entreprendre ces projets-là sans être payé, en donnant quelquefois des jours, des semaines et des mois dans certains projets, sans avoir vraiment aucune rémunération. Mais c'est grâce au statut que j'ai pu justement me permettre de créer ces projets-là et me faire naturellement une vitrine pour pouvoir travailler par la suite. Je sais pas si j'étais assez clair, c'est assez complexe, mais voilà.
Super clair, et ça montre aussi l'importance du statut pour tous ces métiers artistiques.
Dans le monde de la culture, c'est super important.
Exactement. Donc c'est pour ça que c'était important de faire un mini focus là-dessus, même si évidemment on va très vite retourner à ton aventure. Du coup, tu te positionnes vraiment après cette expérience RMC en tant que réalisateur et producteur. C'est quoi un peu le premier projet qui arrive après ce switch?
En fait, RMC, je l'ai gardé assez longtemps quand même.
Ouais.
Même quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à faire de la réalisation, comme je te disais tout à l'heure, en gros, un peu en parallèle. J'avais mon intermittence parce que j'avais mes heures, mais j'avais mes heures parce que j'allais RMC justement. Et ensuite, par la suite, je commençais à travailler. Je travaille toujours d'ailleurs un peu avec M6, W9, BFM TV, etc. Donc je faisais un peu des heures un peu dans toutes les chaînes dès qu'ils avaient besoin en fait. Donc beaucoup de précarité, mais ça me permettait d'avoir mes heures. Et en parallèle, donc du coup j'ai commencé à faire mes réalisations. Le premier clip que j'ai réalisé, c'est un ami de BTS qui à la base lui était en, il faisait du son et à côté il faisait de la musique, donc il était voilà spécialisé en son au BTS pour devenir possiblement ingénieur du son, etc. Mais lui ça l'intéressait surtout pour se développer dans la musique et avec son groupe de musique, et il nous a demandé en sortie de BTS quelques mois après, j'étais arrivé sur Paris et quelques mois après il nous a dit voilà il nous a dit parce que du coup j'étais en coloc avec mon chef op et il nous a demandé si on serait intéressé de lui réaliser son clip, et donc on s'est dit bah let's go. Moi là-bas j'étais pas du tout dans l'ambition de faire des clips, j'étais vraiment focus fiction cinéma, et en fait je me suis lancé, je me suis prêté à l'exercice et écoute, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, les clips. J'ai découvert une nouvelle énergie qui était, contrairement à la fiction, d'avoir une idée, de la mettre en place, de la tourner et sortir le projet fini en un laps de temps quand même très court, quoi. Et c'est vraiment très agréable, tu vois, parce que sur un projet de fiction, tu vas écrire pendant des mois, des années, pour pouvoir préparer un projet pendant des mois, pour le tourner pendant une semaine, ou si c'est un long métrage, pendant plusieurs semaines, voire mois. Et après, ça met un an de post-prod, ou alors 6 mois. Enfin, c'est très très long. C'est un processus vraiment qui est totalement différent. Versus là, en un mois, on m'a appelé, et en 2 semaines après, on a tourné, et 2 semaines après, parce que du coup, à chaque fois qu'on vient nous voir pour les clips, c'est toujours en mode la deadline. C'était pour hier. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est vraiment ce qu'on me dit souvent, en mode, alors là, c'était pour hier, donc là, faut y aller, quoi. Et donc, du coup, ça va très vite, et du coup, c'est très agréable. Et de là, j'ai fait ce premier clip. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer d'en faire un deuxième. Donc, j'ai commencé à démarcher des artistes. Il y a une artiste, du coup, qui m'a fait confiance. Je vais faire un deuxième clip. Et je me suis dit, pas mal, mais comme pour une boîte, justement, tu vois, je reprends le parallèle que t'as fait tout à l'heure. Si je veux réussir à avancer plus vite, il faut que je gagne en visibilité, en fait, et que mes réalisations soient vues. Donc, je me suis dit, bon, là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de budget sur les clips que je fais. Mon objectif, ça va être de réussir à avoir un peu plus de budget et de toucher un artiste qui est un peu plus gros. Et tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris mon Spotify, je vais qui c'est que j'écoute beaucoup en ce moment, mais qui est pas non plus, tu vois, genre, un intouchable que je pourrais contacter et qui me mettra un vent ou quoi. Bien que j'en ai pris énormément. C'est le jeu. Beaucoup de vent. Ah, on connaît, c'est bien. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, let's go. Voilà, on met l'ego de côté. Et puis, on se dit, voilà, on va prendre des vents, quoi. Et j'ai envoyé un message. Et c'est Spider Z, du coup, qui m'a répondu, avec qui on s'est bien entendu. Il cherchait quelqu'un pour faire des clips, essayer de produire ça un peu plus qu'il le faisait lui-même de manière plus homemade, tu vois. Et il m'a fait confiance sur Sous la douche, du coup, qui a été mon premier, on va dire, gros clip un peu produit, où on avait un petit peu d'argent. On a tout géré nous-mêmes, en fait. Donc, du coup, j'étais un peu moi-même la prod, mais juste pas de nom de prod à cette époque-là. Et on a fait ce premier clip. Et ça s'est très bien passé. On était très contents. J'étais moi-même content et ça m'a permis de rencontrer, du coup, d'autres producteurs. Et dans la foulée, j'ai rencontré DETH, qui avait fait un plateau commun avec justement Spider Z, je crois, en Suisse. Ils avaient fait un plateau, un concert ensemble. Et de là, on est rentré en contact et on a fait 7e Ciel. Ensemble, qui lui a vraiment bien fonctionné, a fait plusieurs millions de vues, et donc forcément ça donne vraiment de plus de crédibilité, en mode voilà, j'ai déjà fait plusieurs clips qui sont déjà assez cool, tu vois, visuellement, plein d'erreurs parce que évidemment on évolue tout le temps, mais voilà, je sors tout juste d'école, j'ai fait ça, il y en a un qui a fait plusieurs millions de vues, et j'ai commencé à rentrer tranquillement en discussion avec des sociétés de production qui pourraient me placer dans leur brief pour du coup pitcher pour des labels et donc faire des propositions de scénario. Mais c'était que l'échange à ce moment-là, donc j'ai continué de faire des clips bénévoles. Donc voilà, donc je sais plus, j'avais travaillé avec d'autres artistes, il y avait Léo Roy qui était venu me voir, on a refait un clip avec Spider Z, on a refait un clip avec DETH, et Spider Z ça a été un peu le déclic, c'est quand il est revenu me voir, c'était pendant le confinement. Il m'envoie un message, il me dit « Damien, je t'en avais parlé, mais ça se concrétise, je fais un feat avec Big Flo Oli, est-ce que tu serais intéressé de faire une proposition de scénario ?» Je vais être honnête avec toi, il y a d'autres réalisateurs qui nous font des propositions. Pour l'instant, celle que j'ai reçue, on n'est pas forcément emballé, mais du coup, je voulais avoir ton retour et voilà, si ça t'intéresse, let's go. Et je me suis dit, carrément chaud de pitcher. Et voilà, j'ai fait une proposition de scénario et il se trouve que la proposition de scénario était très très similaire à l'idée que Big Flo avait du clip. Ouais. De là, forcément, ça a matché. On a échangé avec les gars et le clip s'est fait. Et ça a été un petit peu un tournant pour moi parce que du coup, c'est forcément d'avoir des têtes connues.
Grosse visibilité.
grosse visibilité, un clip qui tourne, un peu de télé, etc. Donc forcément, du coup, de là, j'avais de l'entrant. Les boîtes de prod qui avant étaient en mode « vas-y, continue un peu, on verra ». D'un coup, c'est en mode « let's go, on t'envoie des clips en pagaille ». Et je continue d'en avoir beaucoup en perso. Et donc voilà, et de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plein de clips. Et du coup, pour rejoindre la question de la production, ça s'est venu en fait naturellement par
la
suite.
Et en fait, au fil de ton aventure, ton positionnement s'est affiné justement sur le fait de réalisateur, ensuite sur les clips.
Ouais.
Et ce qui est cool avec ce métier, comme pas mal d'autres jobs finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'un projet en débloque un autre. C'est-à-dire que plus tu fais de projets, effectivement, plus t'en débloques, plus t'intéresses d'autres gens, plus t'intéresses d'autres gens, plus ça crée d'autres opportunités. Et il suffit de effectivement cette opportunité qui te connecte avec des artistes qui ont une grosse audience et une grosse notoriété pour débloquer finalement les deux trois dernières années que t'as pu connaître.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que je dis beaucoup. Là, j'ai un ami Jordan Anéphalos avec qui je coécris en ce moment et qui est un réalisateur aussi très talentueux. Et on échange beaucoup là-dessus sur le fait que c'est marrant, mais c'est comme dans l'entrepreneuriat en général, peu importe les domaines, ce qui crée le travail, les projets, c'est d'être en mouvement, quoi. Le mouvement entraîne du coup des rencontres, et il y a pas de petites rencontres. Vraiment, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui, les premières fois que je les ai vues, ils étaient peut-être étudiants, tu vois, et ils étaient en mode juste, ils avaient la dalle, et moi j'étais en mode, ok, écoute, on en discutera et tout. Et en fait, 3 ans après, en fait, ils font un truc énorme. Et en fait, on retravaille ensemble parce que tu les as considérés quand tu les as rencontrés. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment pas de petite rencontre. Faut vraiment considérer tout le monde parce que, enfin, tout le monde peut avoir son moment pour percer dans son domaine, faire des projets. Et vraiment, le fait d'être en mouvement, forcément, ça te crée des opportunités. Et ça te permet comme on en parlait un peu rapidement tout à l'heure, à aussi de voir comment tu taxes, comment t'as envie d'évoluer toi-même à titre personnel en prenant du recul sur ta situation. Et c'est comme ça, moi, du coup, que je me suis amené naturellement vers la production. C'était pas du tout destiné à la base. Je voulais vraiment pas spécialement faire de la production, mais je me suis retrouvé dans un cas très concret en fait, où je venais de faire mes premières collaborations, avec un artiste sur YouTube qui était Geezy du coup. On a fait un clip ensemble, et pendant qu'on a fait ce premier clip, du coup, ça m'a fait soirée ensemble, et ils m'ont proposé de qu'on refasse un deuxième clip ensemble. Sauf que je me suis retrouvé dans une problématique où, par souci de budget, de aussi trop de projets pour les boîtes de production avec lesquelles j'avais l'habitude de collaborer, elles n'étaient pas intéressées spécialement de produire le projet. Et donc, je me suis retrouvé en mode « Ah, tu veux pas ? Toi, tu veux pas ?» Et donc, là, à ce moment-là, je travaillais à peu près avec 3-4 sociétés de production, parce que j'ai jamais été signé en exclu, du coup, dans des boîtes de prod pour travailler qu'avec une seule. Comme ça, ça me permettait d'avoir la flexibilité, oui, tu vois, de pouvoir changer, de travailler dans des univers différents, avec des réseaux différents. Et donc là, je me suis retrouvé à devoir refuser un projet. Et puis, j'en ai eu un deuxième, puis un troisième. Et puis, c'est des projets auxquels j'avais de l'intérêt, où je voulais participer, je voulais réaliser. Et donc, forcément, ça m'a un peu frustré à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment où je monte ma boîte de production, quoi, genre ma société de production, et comme ça, je produis par moi-même, et s'il n'y a pas beaucoup de budget, je peux le faire quand même. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai monté, dans un premier temps, vraiment pas dans un but de la développer, dans un premier temps, vraiment dans le but de produire les projets que je ne peux pas faire avec les autres boîtes de production. Et donc, du coup, j'ai continué de faire des projets. De là, l'année qui a suivi, justement, j'avais fait Offenbach avec Miami Productions. Et encore aujourd'hui, je collabore toujours avec des sociétés de production. Mon but, c'est pas du tout d'aller leur prendre leur marché sur ce point-là, parce que niveau clip, etc., c'est pas ce qui m'anime le plus.
C'est complémentaire.
C'est totalement complémentaire pour moi. Et en fait, de là, en fait, il y a un nouveau marché qui est un peu arrivé, du coup, à moi. Ça a été un peu de rencontrer plein de créateurs de contenu. Et en fait, de là, ma boîte de production, c'est un peu plus axé sur le digital, où j'ai beaucoup plus réalisé avec tous les projets, on va dire, clips, petites pubs, etc. Et en fait, j'ai développé un peu plus la publicité et la partie, du coup, YouTube, où j'ai commencé à travailler avec des créateurs, à devenir auteur avec certains pour les conseiller dans l'écriture, avec d'autres, du coup, produits, réalisés et certains concepts. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus axé là-dessus et je continue de collaborer sur la partie clip avec d'autres sociétés de production, même sur des publicités avec d'autres sociétés de production, quoi.
Et c'est pas étonnant parce que c'est un milieu qui a complètement explosé ces dernières années en termes de qualité de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur YouTube, les qualités de production, elles sont juste insane, en fait. À chaque fois, t'as des équipes de ouf derrière, les créateurs qu'on connaît et avec lesquels aussi tu travailles, par exemple, avec Magla, notamment. C'est hyper intéressant. Ce switch de la société de production, enfin, ce switch, pas un switch, plutôt rajouter un asset de compétences, entre guillemets, à ton métier, ça s'est fait quand?
Ça s'est fait quand le moment où j'ai vraiment pris la partie
production. Où t'as créé la société de production, ouais.
Bah, la société, elle a 2 ans.
Ouais, donc c'est hyper récent.
2 ans et demi.
C'est hyper récent. Ouais.
Oui, je crois que c'est 2 ans et demi. Je l'ai monté, c'était genre un an et demi après le Covid. Donc c'est ça, ouais. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. J'ai eu une première année, en fait, où j'ai pas fait grand chose avec la société. Comme je disais, j'étais vraiment en mode, c'est vraiment mon plan B. Enfin, en gros, je travaillais avec les boîtes de prod. Et en plan B, dès que aucune voulait, j'étais en mode, je le fais moi-même. Je tiens vraiment à faire ce projet-là, je le fais. C'est comme ça que j'ai travaillé avec des artistes très talentueux qui sont aujourd'hui pas sur le devant de la scène. Je pense entre autres à Colline, du coup, Colline avec un K, qui est très talentueuse et qui avec qui j'ai pu faire un très joli clip où on a co-réalisé ensemble justement et on l'a fait en fait en tout petit moyen et en fait on a fait un super clip où on a reconstruit un ascenseur et tout. Mais avec les moyens qu'il y avait, du coup, pour ce clip-là, on n'aurait jamais pu le produire avec d'autres sociétés pour que tout le monde soit gagnant. Là, pas vraiment gagnant non plus parce que c'est vraiment de l'investissement personnel et l'envie de créer une œuvre un peu, tu vois, plus que de faire de l'argent sur ce projet-là. Et je regrette pas du tout. Et par la suite, ça a été vraiment, là, ça va faire 1 an. Depuis 1 an vraiment où j'ai commencé vraiment à prendre plus au sérieux, on va dire, la partie production, et où du coup j'ai plus challengé le fait d'aller chercher de nouveaux projets, parce que jusqu'à présent j'étais dans une position très confortable où on venait à moi en fait avec des projets, je recevais des appels d'offres de clips régulièrement, en publicité régulièrement, toujours aujourd'hui, tu vois, mais là j'étais dans une position vraiment confortable où j'avais même pas besoin d'aller chercher des projets, là où je me suis mis un peu ce challenge là de me dire allez, je vais essayer avec ma société de production de plus aller chercher de me lancer, faire un peu plus de produits pour le digital. Donc, étant donné que ça est en train de se révolutionner, toute la publicité verticale notamment pour TikTok, Instagram, YouTube, puis commencer à produire tranquillement des projets au-delà du clip, mais du coup des concepts dont tu parlais tout à l'heure, comme avec Magla, Jure c'est à toi, du coup, où on a pu faire une belle émission qui a super bien fonctionné, et donc mettre en place justement toute la partie production autour de tout ça et accompagner en fait plein de créateurs de contenu, parce que ce qui est ça qui est super bien, c'est qu'avec Twitch et avec YouTube, il y a un mélange de tournage posé, fiction, enregistré, et en même temps il y a un mélange dans les productions de live, et que j'ai par les compétences de télévision, et je regroupe un peu toutes ces compétences là et c'est ça qui est super bien, c'est qu'aujourd'hui je travaille avec des créateurs, ils viennent me voir d'abord dans une partie auteur où on va écrire ensemble, donc l'idée ça va vraiment être de développer un projet, ils viennent, ils ont juste une idée, là on aimerait faire une émission de sport. J'ai dit n'importe quoi, tu vois. Et de là, on va écrire autour. OK, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? OK, c'est quoi tes références? Qu'est-ce que t'aimes? Avec qui tu te vois, par exemple, faire des feats? Et de là, on va créer vraiment, du coup, des projets, des émissions. Et par la suite, ils sont en mode, t'as même j'ai les compétences, du coup, de pouvoir et produire et réaliser. Et, si c'est destiné à un live, je sais le faire. Si c'est destiné à un produit enregistré plus format YouTube, je sais également faire. En plus, je l'ai déjà fait. Donc, du coup, c'est hyper rassurant parce qu'il y a vraiment un package de A à Z aujourd'hui qui était pas du tout pensé à la base. Je me suis jamais dit, business plan, je vais faire tout de A à Z et tout.
La majorité des gens ne passent pas par ça.
Ah ouais, non, mais je me suis dit vraiment, genre, c'est venu de...
On n'a jamais parlé de business plan en 140 épisodes.
Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est genre, quelquefois, on me dit, tiens, c'est malin et tout.
Le seul moment où on voit ce genre de choses, c'est potentiellement dans les écoles de commerce, etc. Mais sinon, en vrai, donc quand t'es sur le terrain et que t'entreprends vraiment, t'apprends en faisant.
Si
tu sais pas faire, tu le fais. Tu le fais peut-être mal, tu vas faire des erreurs, etc. Mais en le faisant, tu vas progresser, tu vas devenir bon. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être excellent. Et à terme, potentiellement, tu feras des trucs de ouf.
Bien sûr, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est ça le chemin, entre guillemets.
Ouais, bien sûr. ça, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que justement, d'entendre quelquefois, par des discussions, que ce soit méchant, mais des trucs de genre en mode, tu t'es super bien placé et tout. Je suis en mode,
c'était pas prévu.
je suis allé là, j'ai pris tous les projets qui sont venus, j'ai fait comme bon me semblait. projet. Et oui, aujourd'hui, bah, du coup, j'arrive à proposer une offre un peu complète du fait d'être allé dans la télévision. J'avais pas anticipé de faire de la télé pour faire du live après. Et puis de faire, bah, là, on avait fait avec l'agence Leak, on avait fait un live aussi pour Bastos à l'Atelier des Lumières. C'était super sympa. Et voilà, genre, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de petits projets comme ça où, bah, forcément, genre, j'étais pas destiné à la base. Jamais je me suis dit que je voudrais faire du Twitch plus tard et de la réalisation, et encore moins de la production live. Alors moi qui voulais faire que de la fiction, j'ai fait un peu un grand écart presque, mais c'est hyper stimulant et enrichissant de travailler sur plein de projets différents.
Et puis de toute façon, enfin c'était quelque chose que tu ne pouvais pas prévoir parce que c'est des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années en fait. Tout ce côté explosion des formats YouTube, explosion des formats sur Twitch. Si on remonte il y a 5, 6, 7 ans, très clairement, on n'est pas du tout dans le même game qu'aujourd'hui quoi.
Ah non, clairement, ouais, non, il y a une évolution. Donc,
Avoir une vision sur 10 ans, 15 ans, etc. dans des métiers artistiques, c'est juste, et même dans plein de métiers, dans la plupart des métiers en vrai aujourd'hui, c'est impossible, c'est complètement contre-productif.
Tout bouge tellement vite, même dans la tech ou quoi, tu vois, bah, genre, sûr, tu peux avoir une idée un peu précise de ton évolution et en fait tu vois qu'il y a un chat GPT qui sort
avec une année à l'autre
et puis ton truc est tout est chamboulé et t'es en mode ah, ok, maintenant en fait t'as d'autres opportunités, d'autres
vies. Fais déjà un plan sur la semaine et puis ce sera très bien. Non, c'est un bon rappel. Pour revenir sur la créativité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as un process créatif en particulier? Tu me parlais justement on part d'une idée, évidemment, comme tout, hein. Phase d'écriture ensuite, et qu'est-ce qui se passe après en termes d'exécution, on va dire?
Tu veux dire pour la création vraiment d'un projet?
Ouais, vraiment, process créatif.
Quelle est la démarche?
Ouais, exactement.
Bah, franchement, ça rejoint ce qu'on a pu dire avant, le être en mouvement. Moi, ce qui m'aide et ce qui m'inspire énormément, bah, je vais dire un truc un peu cliché, mais c'est vrai que je note beaucoup ce qui se passe dans ma vie. Ça m'arrive souvent de me réveiller en pleine nuit quelquefois avec une idée, tu sais, d'un rêve qui à la base est un rêve un peu bizarre, mais en fait finalement il va se concrétiser et il y a une partie de ce rêve là qui va m'aider et nourrir une idée plus tard. Et donc en fait être en mouvement, ça aide beaucoup forcément. Demain on a le fameux syndrome de la page blanche, rester chez soi devant l'ordinateur et attendre qu'une idée tombe, ça marchera peut-être, hein, mais c'est vraiment pas le bon réflexe à avoir. Ça m'est arrivé, hein, évidemment. Je sais qu'il y a une période où je faisais beaucoup de pitch pour les clips notamment. Je recevais beaucoup de propositions et donc il y a des sons évidemment que je recevais. Certains plus mieux que d'autres d'un point de vue écriture, tu vois. Certains voulaient pas vraiment dire grand-chose, donc du coup là t'es un peu livré à toi et puis le brief du label c'est fait comme tu le sens. Et donc du coup tu te trouves dans une... J'aime bien imaginer ça un peu comme si j'étais un peu au milieu de l'océan et tu sais pas un peu vers où aller, tu vois. Et tu te dis, si je nage vers là, est-ce qu'il y aura une île? J'en sais rien. Donc tu nages un peu vers là-bas, tu sais pas trop, tu nages vers là. Alors que si tu arrives à te racoler une idée, bah au moins tu connais ton cap. Donc du coup, tu sais pas combien de temps tu vas nager, mais au moins tu sais que là-bas il y a ton île, tu vois. Et j'aime bien, tu vois, le rendre cette métaphore-là parce que c'est vraiment ça dans l'écriture. Il y a des moments quand t'as le syndrome de la page blanche, bah t'es juste au milieu de l'océan et t'es en mode waouh. Comment je commence, tu vois? Et souvent je me nourris de choses du quotidien, voilà, des moments du quotidien, de d'instants de vie, de d'histoires ou d'anecdotes que j'ai pu avoir, que j'ai noté, que j'ai rêvé. Et ça c'est vraiment un point de départ quand ce n'est pas donné de tout simplement par des créateurs, hein. Là ça m'arrive aujourd'hui, il y a des créateurs, je te disais tout à l'heure, ils viennent et ça arrive souvent que les créateurs idée très précise, très peu. Bah généralement quand ils ont une idée très précise, ils me font pas appel à moi du coup. Donc moi c'est plutôt genre en mode ils viennent me voir quand ils sont dans un flou, ils sont un peu en mode voilà, je prenais l'exemple du sport tout à l'heure, mais voilà, je suis une page où je fais que du fitness, etc. Et là d'un coup je me dis tiens, demain ça pourrait être marrant, bah on voit les concepts qui arrivent sur YouTube, bah ça pourrait bien peut-être d'avoir un concept dans le mood de ce qui se fait sur YouTube aujourd'hui, mais axé sport. Et donc là ils sont un peu en mode bah nous c'est pas notre métier d'écrire ou de trouver des concepts, voilà, ou alors on fait ça depuis 15 ans, du coup à force les concepts on en a pondu dans tous les sens. Et c'est là justement où ils rentrent plus facilement en contact avec moi et ça va être en mode bon voilà, la directive, voilà, genre tu sais ton île est là-bas, c'est le sport. Voilà. Pour y aller, bah tu sais que bah t'as 2-3 bateaux là, et bah du coup on aime bien cette émission, on aime bien ce truc, etc. Donc là tout simplement bah il y a un travail de documentation, tu vois. Donc si on me dit j'aime telle émission, bah si je l'ai pas vue, va falloir que j'aille me nourrir de cette émission, aller voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que moi quand je l'ai regardé je n'ai pas aimé et qu'est-ce que j'ai aimé, pour moi-même bah m'en imprégner et peut-être trouver de nouvelles idées, et avec bah mon petit carnet de notes avec toutes les idées que je peux avoir, bah essayer de faire un mix de tout ça. Et non vraiment c'est bah du coup c'est un peu comme ça que je me nourris aujourd'hui. J'ai même testé un peu et c'est vrai que ça c'est une grosse aide. Qui, bah, justement, on parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est vrai que quelquefois, le plus dur, c'est un peu le déclic du départ. Et je l'ai testé un peu dernièrement, à voir, à reproduire. Je l'ai pas encore assez expérimenté, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ça m'est arrivé quelquefois de rechercher un peu, justement, cette trame que je voulais en, d'un point de vue, ok, on va écrire sur tel sujet, un peu compliqué, ça me parle pas trop. Bon, j'ai trois thématiques, mais j'arrive pas à trouver au centre. Et j'ai testé justement de taper sur ChatGPT typiquement en mode donne-moi des idées en corrélation ou des synonymes avec ces univers-là. Et pardon. Et du coup, ChatGPT m'a vraiment aidé là-dessus. Ouais. Vraiment, j'étais en mode ah c'est intéressant. Ça se fait pas ton boulot. Hein. ChatGPT va clairement pas te donner un concept demain. Tu peux le faire, mais généralement si je l'ai fait par curiosité, je me suis dit est-ce que mon métier est mort. Quand c'est arrivé, évidemment, j'ai tapé ChatGPT concept etc. En creusant un peu, très vite, tu retrouves des trucs. En fait, c'est des concepts qui sont pompés des autres pays, des machins, etc. Et t'as pas vraiment, comme c'est basé sur des choses qui existent déjà, c'est pas vraiment quelque chose qui va te nourrir, mais c'est quelque chose qui va mettre plutôt, qui va mettre la pièce pour te lancer, tu vois. Genre en mode ah.
C'est exactement ça. Les outils d'IA aujourd'hui, notamment ChatGPT, c'est vraiment un outil qui te permet un déclic, qui peut te donner des pistes, mais qui va pas exactement faire le travail à ta place. Et en termes de créativité, on est encore loin, tu vois.
Bien sûr. Puis en plus, c'est pas le but, quoi. Ça, c'est.
Et c'est pas le but.
Si le but c'est de trouver des idées, en fait, de les repomper d'un prompt qui a été donné.
Bien sûr.
Toute l'excitation en plus, du coup, s'en va, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est plus un voilà pour s'aider de temps en temps. Mais bon, ça, je. Voilà, je recommande vraiment vivement d'être en mouvement. Voilà, de bouger, c'est le mieux. Pas déjà humainement, déjà ça te fait changer d'air, tu vas avoir des expositions, tu vas rencontrer du monde, tu auras des choses à raconter et avoir des choses à raconter qui se produisent réellement ou qu'on a vécu, bah il y a rien de plus sincère et donc du coup si jamais ça t'a touché un mouvement, un jeu que tu as vu dans la rue qui n'existe pas mais qui a été un peu inventé sur le pif entre deux enfants etc. Si eux, ça les a fait marrer et que toi, ça t'a interpellé quand tu les as vus, ça veut dire que ça peut toucher du monde. Donc là, tu touches quelque chose de très palpable versus écrire des idées comme ça, quelquefois un peu qui tombent de nulle part. Il y a quelque chose déjà de plus authentique, quoi.
Ouais, je suis complètement aligné là-dessus. Et pas hésiter à changer de cadre. Tu vois, moi, je me rappelle le premier confinement, je me retrouve dans 40-50 mètres carrés avec ma copine. À la fin du confinement, en termes de créativité, j'étais au plus bas, tu vois.
Ah ouais. Et t'avais un jardin quand même ou pas du tout?
Non, rien du tout. J'avais pas de balcon, j'avais rien, tu vois. J'étais vraiment enfermé entre quatre murs, entre guillemets. Il y avait les petites balades, tu vois, l'heure de marche.
Oui, dans un rayon près des
voilà, c'est ça.
Et moi, j'étais un peu moins vécu parce qu'on était allé, j'étais un peu plus à la campagne. Ouais. Donc, du coup, c'était plus flexible à la campagne parce que, les contrôles, trop. Et puis, en fait, les voisins, il n'y a pas tant que ça. Donc, du coup, c'était assez cool. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai vécu de manière plus chill, le confinement là-dessus. Mais je comprends d'être enfermé au même endroit, fou la créativité au bout d'un moment.
Et quelques mois plus tard, tu vois, en 2021, je suis parti 6 mois à l'étranger. Et là, par contre, la courbe d'idées, etc., elle a complètement explosé, tu vois. Et c'est vraiment cette période qui m'a donné envie de...
T'es parti pour ça ou t'es parti pour changer d'air tout court à la base?
Un mix des deux.
Ouais, et c'est un constat que t'as fait, en fait, arrivé là-bas.
C'est pour ça que le côté changer de cadre, et je l'avais vu aussi pas mal du côté des États-Unis en termes d'état d'esprit, etc. Le fait de changer de cadre, c'est assez ouf en termes d'impact.
T'es parti aux États-Unis, justement?
Non, pas du tout. J'étais parti au Portugal, à Lisbonne. Mais du coup ça c'était un voyage assez impactant, tu vois, pour la suite.
Puis c'est sympa en plus comme pour partir, voilà, pour déconnecter Lisbonne. Ça reste sympa, il y a
même
pire.
Si je continue à taffer, hein, c'était pas en vacances,
bien sûr,
hein, c'était...
Ouais. Mais il y a toujours un air de vacances quand on parle,
et ça fait plaisir
faut vraiment, ça fait vraiment plaisir.
C'est clair,
ça n'empêche pas.
Exactement. Pour revenir un peu sur le côté clip, qu'est-ce qui fait qu'un clip a du succès? Tu vois, typiquement, je prends l'exemple de C'est pas bien, de Spider Z avec Bigflo et Oli. Moi, je sais que c'était un titre que j'avais pas mal streamé à l'époque. Et ensuite, j'avais vu le clip et j'avais trouvé le clip dans un mood très cool. Tu vois. Alors évidemment, la base, je pense qu'il y a le côté mélodique et la musique qui
bien
fait la fondation du clip.
Bien sûr. De toute façon, c'est indéniable. Franchement, qu'est-ce qui fait qu'un clip va très bien fonctionner? C'est que le son déjà est bon.
Ouais.
Enfin, franchement, voilà, je vais pas faire le mytho là-dessus. Il y a très peu de sons qu'on a découverts grâce au clip. Enfin, c'est peut-être déjà arrivé, ou alors c'était des masterclass, mais souvent, généralement, c'est que voilà, le son est déjà marche très bien. Et si le clip, justement, c'est souvent comme ça que je sais que c'est une discussion que j'avais pas mal avec les artistes. C'était en mode, ils ont des sons qui fonctionnent bien, mais avec le clip sur YouTube, ça a pas fonctionné, etc. Et je pense que c'est un peu ça. C'est si jamais t'arrives à faire un peu une belle symbiose, que le clip correspond parfaitement à la musique. Et qu'en plus il raconte quelque chose, il va, et ben là ça fonctionne. Et moi je sais que ça avait été le cas avec Septième Ciel. Ça a été mon premier clip qui a fonctionné. D'ailleurs c'était genre mon troisième ou quatrième clip, donc c'est trop bien. Et là aujourd'hui je sais pas, il a 5, 6 ou 7 millions de vues. Bah, il a fonctionné parce que c'est déjà c'est un son en 7 minutes, donc ça a donné le challenge de faire un clip de 7 minutes. On l'a tourné sur 3-4 jours, voilà, on s'était débrouillé, on n'avait pas les budgets que qu'on peut avoir aujourd'hui sur des productions. On avait fait ça vraiment en indépendant, quoi. Et il y avait vraiment une envie de vraiment coller à la narration, coller aux paroles du clip, et donc du coup il y a vraiment une, ça se regarde un peu comme un petit court métrage, quoi. En fait on suit le personnage, donc les personnes qui vont le mettre ne vont pas forcément le mettre qu'en fond, ils vont revenir voir le clip pour le voir, en fait le visualiser, et non pas mettre seulement le son, et donc naturellement ça contribue à un succès. Là tu prenais comme exemple C'est pas bien avec Big Foley. Ça a été une question. Moi, je sais que quand ils m'ont proposé, donc je le disais tout à l'heure, de faire une proposition de scénario pour le clip, je me suis posé la question de comment je max en fait sur la proposition du scénario que je vais faire, quoi. Est-ce que j'ai deux éléments, j'ai Spider-Z du coup que je connais bien, je sais ce qu'il aime artistiquement, du coup il aime bien les choses un peu déjantées qui collent à son image et un peu drôle, tu vois, dans l'humour mais retenu, en mode un peu plutôt gaffeur, etc. Et à côté on a Big Flo Oli, du coup qu'on image voilà assez populaire sur les réseaux, qu'on fait quand même des très beaux clips, mais c'est vrai que tout souvent voilà très coloré, etc. J'avais eu le questionnement justement de me dire comment j'axe ce clip. Est-ce que j'essaye de révolutionner en mode, parce qu'il y a un peu ce truc là d'ego aussi quand t'arrives dans le monde, c'est que t'as un peu envie de révolutionner le game et te dire est-ce que je révolutionne et je fais un clip personne s'y attend, et là on ramène Big Flo Oli et en fait Big Flo Oli ça finit en meurtre et tout machin, tu vois. Et après je me suis dit là le but c'est non pas de révolutionner, c'est d'avoir le projet, tu vois, parce que je suis face à d'autres personnes. Et du coup, j'ai fait cette proposition, je me suis dit bah je vais essayer de garder l'univers de Big Flo Oli et mettre dedans tout l'humour et le scénario qu'on aurait pu faire avec Spider-Z, et ça a donné un peu ce truc un peu drôle à la classe, parce que quand j'avais entendu le son là de c'est pas bien, je me suis dit ça fait un truc un peu autoritaire et à la fois pas trop, et en même temps ça fait un peu voilà la prof de l'école qui te fait c'est pas bien, attention, et mais en même temps qui peut pas aller plus loin que te dire c'est pas bien parce que c'est pas ta mère, tu vois. Et je me suis dit il y avait le cadre était un peu idéal par rapport à ça. Et je me suis dit, let's go, on va essayer d'écrire ça. Et puis, j'ai bien fait, comme quoi, apparemment, j'ai bien fait du fait que le clip s'est fait. Et c'était un peu l'idée, qu'avait Big Flo sur ce projet-là. Et par la suite, j'ai même appris que, d'autres réalisateurs qui avaient proposé des scénarios pour ce clip-là avaient justement proposé des scénarios un peu glauques, genre, justement, pour sortir l'image de un peu de Big Flo Oli en mode arrivé et faire un peu, un banger sans doute, peut-être, tu vois, genre. Et je me dis, c'est marrant. Du coup, je me dis, à la fois, eux, ils ont osé. Parce que moi, du coup, j'avais mon côté réel qui était un peu en mode, putain, bien joué. Eux, ils ont osé faire ce pitch-là. Mais en même temps, ils ont pas eu le projet, justement, parce qu'ils ont osé et ça a pas plu, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc là, c'en est arrivé là. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Justement, quand t'arrives à que le clip soit vraiment en synergie et vraiment en symbiose avec le son, les gens passent un bon moment parce qu'ils aiment bien la musique, mais ils aiment bien aussi le clip. Donc, du coup, ils regardent le clip pour entendre la musique, mais ils entendent la musique aussi pour voir le clip. Et après, ça fait sa vie en télé, etc. Et du coup, fait que naturellement, le clip fonctionne, quoi.
Est-ce que aujourd'hui, après toutes tes expériences de réalisation de clips, quand t'écoutes de la musique, tu visualises des clips ou pas?
Ouais, régulièrement. C'est un truc que j'aime bien faire. Alors, ce que j'aimais le plus faire, je le fais un peu moins aujourd'hui, c'était quand je recevais des pitchs. Il y en a certains que du coup je faisais pas parce que ça m'intéressait un peu moins ou c'était des thématiques qui me parlaient moins. Et j'aimais bien m'imaginer le clip, me le noter sur une feuille et attendre que le son sorte, voir comment il était perçu et aller voir le clip final qui avait finalement été réalisé, quoi. Et ça, je trouve ça drôle, justement, de me dire, et ça m'arrive quelquefois de le faire aussi sur certains sons. Il y en a certains, je les écoute, je me dis, putain, ils sont trop bien, ces sons. Putain, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Ok. Ah, c'est marrant, j'aurais peut-être essayé de faire ça. Et puis, je vais voir le clip après et je me dis, oh, il a pas du tout fait comme ça, mais c'est archi stylé. Tu vois, genre, et souvent, je suis très agréablement surpris sur ça aussi. Ouais. Genre, souvent, c'est ça qui est, c'est un peu un truc qui est un peu oppressant, qui m'oppressait au début dans le clip. C'était, tu peux pas t'empêcher d'aller voir les autres clips pour te nourrir de ce qui se fait sur le marché en ce moment. Du coup, ce que naturellement, les autres artistes vont consommer. Et donc, ils vont voir les mêmes clips que je vais voir. Donc, du coup, ils vont se consommer. Ils vont dire, moi, j'aime bien ça. Donc, tu te compares un peu à d'autres réalisateurs. Et c'est un truc un peu, c'est un peu énergivore, un peu néfaste aussi pour notre propre personne, parce que du coup tu te mets à te comparer finalement une vision qui est pas la tienne, des techniques qui sont pas la tienne, parce qu'il y a des réalisateurs qui sont très techniques, et par exemple il y a des réalisateurs pendant une période qui fonctionnaient très bien, je me souviens, ils faisaient beaucoup d'effets spéciaux parce qu'ils étaient eux-mêmes en fait ils faisaient eux-mêmes les effets spéciaux, pardon, et du coup forcément, bah eux leur clip était genre blindé d'effets spéciaux, c'était réaliste et cool avec des moyens qui étaient un peu plus faibles parce que c'est eux-mêmes qui le faisaient en fait. Et donc du coup, je pouvais pas me comparer à ça parce que eux c'était leur technique, là où moi bah du coup, j'ai une autre sensibilité, là où un autre réalisateur va plus être sur quelque chose d'assez lent et contemplatif. Et du coup, en fait, chacun a sa sensibilité, il faut se nourrir des autres, mais faut pas non plus que ça te détruise. Bien sûr. Que c'était un peu dur là-dessus à l'époque. Et là où aujourd'hui, je te dis genre là maintenant, je vais faire d'autres clips, je suis en mode ah, j'essaie de voir le positif ou de me dire putain, lui il a une putain d'idée là-dessus, c'est cool. Et du coup, ça te nourrit encore une fois, tu vois, de voir d'autres choses et ça peut te donner des petites idées de faire à ta manière certaines choses, certaines créations quoi.
Mais le fait de se comparer, de toute façon, je pense que c'est pour tout le monde, en vrai, très clairement.
Dans la vie, hein, c'est un réflexe humain.
Exactement, réflexe humain, pas forcément un bon réflexe, mais qui parfois, c'est côté positif de dire, bah tiens, là, potentiellement, ça me donne des idées pour tel ou tel projet. Mais c'est clair que les clips sont tous, enfin, ont tous, je trouve, de plus en plus une vraie patte artistique pour la grande majorité, tu vois. Je pense typiquement à L'odeur de l'essence d'Orelsan en termes de production. Il y a Basique aussi, potentiellement aussi, qui est assez cool. Il y a un clip qui m'a beaucoup marqué, c'était il y a une dizaine d'années, je crois. C'était Hotline Bling de Drake.
Oui.
Je sais pas si... Oui. qui, pour le coup, je sais pas, en termes de réalisation, est assez simple. Mais en fait le mec est devenu un mème pendant
Oui, c'est ça.
Assez longtemps.
Ouais, mais c'est quoi, en fait c'est qu'aujourd'hui aussi les clips je sais pas si je suis assez je commence à être un peu pessimiste peut-être avec les clips, tu vois. Mais c'est que naturellement c'est aussi pour ça que j'ai un peu freiné le move. Alors au-delà de l'artistique là de notre sujet de discussion, genre c'est plutôt que pourquoi je freine les clips, c'est aussi parce que je trouve que c'est trop énergivore et trop chronophage d'un point de vue production par rapport à ce que ça m'apporte humainement et financièrement, tu vois, parce que du coup il faut quand même vivre. Et bah d'un point de vue du coup là sur ce qu'on parlait, bah là tu disais que c'est devenu un mème, tu vois, suite à ce clip là. Là il y a plein de clips aujourd'hui, bah je vois quand on est sorti justement C'est pas bien avec, mais le nombre de capsules sur TikTok dans tous les sens.
Je sais que je l'avais découvert
avec toutes les vannes. Il y avait des et du coup je sais que bah moi c'est comme ça que je me suis lancé aussi sur TikTok en parallèle, c'est que j'ai toujours fait des making of, tu vois, par exemple, et je faisais des petites capsules de making le tournage, donc l'extrait que tout le monde adorait en mode genre je sais plus, genre Big Flo qui te rend une punchline, etc., et boum, versus au tournage ce que ça donnait, tac, et du coup ça fonctionnait très bien. Et du coup il y a tout cet aspect des réseaux sociaux qui est arrivé par la suite et aujourd'hui qui remplace presque les clips. Et et pour te dire, même là hein, là dernièrement j'ai eu pas mal de propositions de labels qui m'ont dit là on voudrait faire un clip, ils reviennent vers moi 3 semaines après, on a abandonné, l'idée serait de tourner 5 reels.
Ah ouais. Ok.
Et c'est marrant. Tu vois, tu dis, ouais. Ça évolue. Parce que, évidemment, les clips télé, déjà, la télé, déjà, maintenant, on commence à toucher une audience qui est vieillissante, vraiment.
Il y a encore des clips sur la télé.
Voilà. Je pense que oui. Enfin, naturellement, les stations de service, etc., ça tourne. Ouais. Et puis je pense comme moi je sais, en tout cas quand j'étais jeune je consommais énormément les clips, je disais les dessins animés tout à l'heure, mais énormément les clips aussi, je regardais beaucoup sur la 17. Oui. et je sais que MTV, je regardais beaucoup, mais
les usages ont évolué quand même.
Mais c'est ça, aujourd'hui je sais qu'à l'époque je regardais beaucoup, mais je pense que c'est aussi une question peut-être d'époque, peut-être que je m'en rends pas compte, peut-être qu'un jeune aujourd'hui qui est au collège pareil regarde toujours les clips, mais c'est un peu un moment T de ta vie. Et puis aujourd'hui on regarde de moins en moins maintenant un jeune qui sort du collège, bah il y en a toujours qui vont regarder les clips, sauf qu'il y a une grosse partie de ces gens-là qui regardent les clips comme nous, etc., ouais. Maintenant qui sont sur TikTok.
Il y a plus de probabilités, je pense, qu'ils tombent sur les clips via TikTok,
exactement,
via Instagram et via Snapchat, c'est essentiellement.
Ça. Et aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, tout explose. Donc maintenant, il y a moins d'intérêt de tourner un clip avec beaucoup de budget. Moi, je l'ai vu, je dis depuis cinq ans maintenant que je fais des clips, des réalisations, le budget du marché du clip, ça a diminué de fou. Genre avant pour un même clip, aujourd'hui c'est quasiment divisé par deux quelquefois certains coûts de budget et de fabrication, parce que tout simplement bah ils savent que c'est pas rentable en fait un clip. Genre tu mets sur YouTube, c'est pas avec la YouTube monnaie que tu vas le rentabiliser. Sur un clip tu fais pas de collaboration commerciale, tu vas récupérer sur les streams, mais les streams même sans faire de clip, tu vas potentiellement, enfin le clip, tu vois, c'est, tu vas chercher un peu ce déclenchement là dont on parlait tout à l'heure, de si le clip est en symbiose avec le son, tu peux le faire péter et du coup générer beaucoup plus de streams, etc. Donc tu t'y retrouves. Et après, sinon, il y a les passages télé. Mais les passages télé, c'est vraiment pas accès à tout le monde, quoi. Quand on voit le nombre de clips publiés toutes les semaines, tous les jours et toutes les semaines, bah, il y a très peu d'artistes qui arrivent à voir leurs clips en télé. Il faut être dans des labels. Il faut être les labels qui sont des labels rattachés, en plus, aux télévisions. Enfin, tu vois, souvent, il y a quelques indépendants qui arrivent à passer dedans parce qu'il y a quand même, heureusement, des branches où ils sélectionnent que des indépendants sans label. Mais, c'est diffusé à M6 à 5h du matin, tu vois. Forcément, aujourd'hui, l'usage elle a évolué, donc faut prendre ce parti-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, travailler sur les réseaux sociaux, ça me va très bien, parce que demain, si je peux faire des clips, mais ce qu'on appellera les clips, ça se trouve, ça sera 5 capsules vidéo. Voilà, j'ai des amis, moi, qui font aujourd'hui de la musique, qui se lancent, et quelquefois, on échange sur le fait de comment faire sa communication. Et du coup, forcément, je viens très rapidement dans la discussion, parce que j'ai fait la réalisation de clips, et le clip, normalement, traditionnellement et historiquement, c'est quand même le moyen de communication d'un morceau. Et là, bah, aujourd'hui, même moi le premier, je suis un peu en mode, bah là, t'as pas de budget, t'embêtes pas à mettre, je sais pas, à mettre tes économies, mettre 1 500 € pour faire un clip. Avec 1 500 €, t'aurais pas tourné je sais pas combien de vidéos. Limite, t'en fais quelques-unes et t'essayes de les sponsoriser, j'en sais rien. Mais c'est avec cet argent-là, aujourd'hui, t'as d'autres moyens d'aller toucher un public plus grand qui te permettra potentiellement de faire tes premières petites salles ou tes premiers petits concerts, etc. et de plus vite évoluer, quoi.
Dans la continuité de toujours être en mouvement. De toute façon, comme toujours, tu l'as dit au début de l'épisode, très clairement.
Oui, mais clairement, ça, faut être en mouvement, et être en mouvement, ça veut pas forcément dire être partout non plus, surtout dans la musique.
Exactement.
C'est aussi être en mouvement, mais autre son image, quoi, en fait. Et donc, du coup, quand tu fais un clip, bah ça, tu fais 5 reels, bah il suffit qu'il y en ait un qui pète, il fait 1 million, bah t'auras gagné de la visibilité, des abonnés, des gens qui vont s'engager, t'as une interaction qui commence à être très très forte, enfin qui commence, mais qui est très forte, notamment sur Instagram aujourd'hui. TikTok, je pense, va le devenir au fur et à mesure, parce qu'ils ont tout intérêt aujourd'hui à rendre plus fidèle leur communauté. Là, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il y a encore des gens qui ont 500 000 abonnés sur TikTok, ils mettent une vidéo, ils font 2000 vues. Il y a pas de moyen d'interaction comme sur Instagram, où aujourd'hui, t'as 500 000 abonnés sur Instagram, tu mets une story, tu fais des vues conséquentes, etc. Mais je pense que ça va évoluer, parce qu'ils ont, c'est dans leur intérêt, je pense, à TikTok. Donc, naturellement, pour les clips, les vidéos, la communication, l'audiovisuel, les réseaux sociaux, c'est un avenir plus que radieux, je pense.
Exactement. Je suis très aligné avec tout ce que t'as dit. Aujourd'hui, Damien, ton métier hyper évolué finalement ces dernières années. Qu'est-ce que tu fais en termes d'actu, en termes de projet? C'est quoi les next steps? C'est quoi la trajectoire? Ouais. Même si elle est difficilement, c'est difficile.
Non, alors, exactement. Une semaine plus tard.
Bien sûr. Tu te vois où dans une semaine, Damien?
Je me vois où dans une semaine? Je me vois où? En mouvement. Alors,
la question, c'est plutôt sur tes actualités, tu vois, et puis toi, tes envies plutôt sur.
Sur mes actualités, j'ai toujours envie de faire de la réalisation, dans tous les cas, de clips. Voilà, c'est plus sous, selon les opportunités. C'est ça, c'est selon les opportunités. Je vis vraiment beaucoup en fonction de toutes mes opportunités qui viennent à moi, en fait. Si demain j'ai une belle occasion de faire une publicité qui me fait plaisir, qui est cool, ou qui financièrement va être intéressante aussi, ça fait partie de l'équation. Évidemment, je suis très intéressé, mais en même temps, voilà, j'ai envie de continuer de développer la partie YouTube, réseaux sociaux, justement. C'est un monde, on a grandi, je pense que c'est pareil, on a grandi dans ce monde de d'évolution de YouTube.
C'est de quelle année?
98.
Ok, 96, un peu plus vieux.
Ouais, on grandit quasiment avec on a vu les mêmes créateurs, les mêmes youtubeurs.
Exactement.
Et du coup, forcément, aujourd'hui, moi, de commencer à collaborer avec certains que je regardais il y a quelques années, de commencer à coécrire avec certains que, pareil, j'étais consommateur à la base, c'est une fierté déjà personnelle, tu vois. Et j'ai envie de continuer là-dedans, parce que je pense qu'il y a tout à faire, en fait. Presque aujourd'hui, on se dit, oh, ça devient un produit sur YouTube, etc. Mais justement, ça devient un produit. Mais genre, il y a tellement de choses qui vont arriver. Évidemment, je pense qu'il va y avoir des retours en arrière. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus tournées en lifestyle. Et puis après, ça va se reproduire. Puis après, la production va se démocratiser un peu plus aussi. Je vois aussi sur YouTube, maintenant, il y a beaucoup plus un mindset d'entrepreneur aussi. Genre, maintenant, ça se structure très tôt. Genre, vraiment, il y a plein de créateurs qui viennent me voir, ils sont en mode, voilà, j'ai 200 000 abonnés et tout, je suis en mode, ça va peut-être être compliqué de faire un projet ensemble, parce que je sais très bien que les sponsors, tu les as en fonction d'un certain nombre de vues, etc. Et en fait, ils arrivent, ils sont déjà tellement encadrés et ils ont tellement bien anticipé, en fait, leur carrière, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur YouTube, qui se lancent en carrière, ils ont déjà des exemples, en fait. Et donc, du coup, ils arrivent et ils sont déjà encadrés, et quelquefois mieux encadrés que certains qui sont de notre génération, de la génération d'au-dessus de nous, qui a un peu implanté YouTube. Et donc, je me vois, du coup, continuer dans cette voie. Je me vois continuer à faire de la production et en parallèle, on en parlait rapidement tout à l'heure, j'ai monté un média culturel, du coup, il s'appelle Petit Moda. qui met en avant du coup plein d'événements culturels et du patrimoine en France. Et voilà, donc j'ai fait ce média-là plus en parallèle, plus pour dans un but de d'avoir une activité, on va dire, un peu plus pérenne et plus fiable et stable. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure un peu en off, le but c'est vraiment pour moi d'éviter de me retrouver bloqué à devoir accepter des projets de réalisation qui ne m'animent pas ou ne sont pas du tout en corrélation avec ce que j'ai envie de faire. Et qui, à l'inverse, du coup, va cette activité-là va me permettre de pouvoir me reposer là-dessus, de me dire de toute façon, j'ai cette activité qui tourne, qui me fait plaisir, où je suis passionné, parce que voilà, c'est pas, ça tombe pas de nulle part, voilà, je fais un média de culture, bon, voilà.
Assez cohérent.
Et, voilà, assez cohérent, ça va, normalement. Et donc voilà, donc c'est un média culturel, donc ça me fait plaisir, ça me fait sortir beaucoup plus, donc beaucoup plus être en mouvement encore. Donc toujours très intéressant. Moi, ça me fait aller dans beaucoup plus de musées, etc. Et puis, ça me permet, voilà, de créer des collaborations un peu différentes, et au lieu d'écrire pour les autres et de créer pour les autres, pour une fois, je commence à le faire pour moi. Et à travers ce média. Et donc voilà, donc du coup, j'invite plein de jeux, tout le monde à suivre ce média, Petit Moda, voilà.
On mettra le lien en description de Petit Moda.
Plaisir, merci beaucoup.
Et donc effectivement, t'as créé ça en juin 2023, on est déjà à plus de 46 000 abonnés.
Ouais, c'est ça.
Objectif 100 000 dans les prochains mois.
L'objectif, c'est de convaincre un maximum de
Exactement.
Personnes et de rallier beaucoup de personnes autour du monde de la culture et voilà, pour remotiver tout le monde à aller au cinéma, au théâtre, bien que le cinéma, j'ai vu que ça avait bien remonté les niveaux fréquentation des salles. Après, je sais que le théâtre, c'est pas encore ça. C'est oui. même un peu compliqué.
Exactement.
Et donc voilà, s'il y a possibilité de mettre en avant plein de personnes talentueuses qui donnent de leur vie justement pour être intermittent et faire des super pièces et contribuer justement à notre divertissement, je le fais avec grand plaisir. Et donc ça me fait plaisir d'avoir ce projet-là en parallèle de la réalisation et de la production.
Ouais. Donc ça fait de très beaux challenges pour la suite.
Ouais, ça fait des emplois du temps chargés. Mais,
exactement,
mais on aime ça.
On vit pour ça. Sinon, on serait pas là.
Pas pour les caméras finalement.
Un peu quand même. sinon il y aurait pas.
Et les emplois du temps chargés.
Exactement. On va pouvoir passer à la partie bilan de ton aventure, même si évidemment on est loin d'être à la fin. Deux petites questions. C'est quoi le moment le plus difficile de ton aventure?
Waouh, le moment le plus difficile.
Vraiment le plus gros down.
Le plus je l'ai en fait. Parce que j'ai réfléchi, parce que évidemment le gros down, il y en a eu plein. Mais le plus gros, ça a été vraiment celui où j'ai eu le plus de mal à me relever, où je me suis posé beaucoup de questions, même au fait d'entreprendre sur le côté société justement, c'est que j'avais un projet, en fait je venais de monter ma société, donc comme je te disais à la base c'était que des projets annexes, et au moment où je me suis dit ça pourrait être intéressant que je puisse produire plus large, je commençais à rentrer en contact en fait avec des producteurs qui font du live, et ils m'ont demandé si j'étais intéressé, en fait en gros c'est une collaboration avec Deezer, je sais pas si je peux dire le nom, mais avec Deezer pour faire un live session, et pour Kenji Girac. Et donc du coup, on avait commencé à mettre en place du coup ce live, malheureusement, le jour J, Kenji Girac est tombé malade. Tout a été annulé, sauf que moi j'avais engendré pas mal de frais sur ce projet-là, etc. Et donc du coup, pour ma première production, là où en plus je connaissais pas grand-chose, donc autant te dire que d'un point de vue assurance, j'étais couvert, mais pas à fond, je me suis ramassé. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Voilà, premier projet vraiment où je me dis, et si on n'y allait pas, let's go, on y va. Ok, on va se calmer. Non, vraiment là, c'était moralement, c'était très très dur. C'était très 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 dur. Et ça lié à un projet que j'ai eu du coup très rapidement après. Enfin, c'était vraiment une période vraiment où j'ai eu un autre projet sur un clip où malheureusement il y a des personnes qui sont un peu malveillantes dans ce monde et qui veulent tirer profit de tout, et j'ai fait un projet dans un clip qu'on a tourné dans un loft d'artistes, donc c'est un loft voilà qui vaut plusieurs millions d'euros, voilà le lieu, parce qu'il y avait un beau parquet versaillais, une vitre sur le sol qui donnait sur le premier étage, etc. Et on a fait un tournage, et suite à ce tournage là en fait j'ai été attaqué pour avoir détérioré le lieu. Sauf que je n'avais littéralement rien fait, j'avais les vidéos, tout ce qu'il fallait. Et en fait, du coup, ça a dû quand même engendrer avocat, etc. Donc ça, c'est un moment très dur, surtout quand t'as jamais vécu ça. C'est genre, moi, je dois appeler un avocat, vraiment. J'en mode, ok, bon, du coup, t'appelles un avocat et puis tu commences à rentrer dans des procédures, etc. Et tout ça pour me rendre compte que, en fait, la personne a tenté de que je lui paye ses travaux parce que elle vendait son bien, et évidemment j'ai été vraiment c'est même pas allé au bout de la procédure parce qu'il y avait rien contre moi, et moi là comme j'ai pu te parler tout à l'heure, je filme beaucoup de making of, J'avais toutes les images de tournage. Mais je me dis, mais si j'avais pas eu tout ça, si la loi dit que t'es en tort, tu vois. Et je me dis, waouh, ça aurait pu me mettre un frein de fou. Enfin, tu vois, tu dois devoir des dizaines de milliers d'euros de réparation pour un truc que t'as pas fait. Et je me dis, waouh, tout ça parce que le gars, la personne, tu vois, cherche à se refaire son appartement et revendre plus cher.
T'aurais même pu demander des dédommagements, quoi.
Et ouais, bah, du coup, c'est pas allé jusqu'au bout. Moi, ouais. Je voulais juste en sortir. Ouais. Parce qu'en plus, ça, c'était arrivé, vraiment, j'avais eu le projet avec Engie Direct, c'était juste avant les fêtes. Et ça, c'est arrivé. En gros, les procédures se sont lancées juste avant les fêtes. Et ça a duré, du coup, plusieurs mois. Et avoir ça qui travaille en arrière-plan.
Je comprends.
Ouais, c'était le moment le plus dur. Et j'ai cru que j'allais pas forcément me relever à ce moment-là. Enfin, que j'allais abandonner un peu la production en ce moment, je me suis dit mais en vrai c'est pas fait pour moi si c'est pour des galères comme ça etc. Et puis après je sais pas, c'est reparti et puis
ouais. Non mais c'est clair que quand ça s'enchaîne.
Mais quand c'est dur, il y a des moments c'est dur. Ouais,
ça te fait gamberger. Tu te poses plein de questions, tu doutes forcément. Mais...
Totalement. Ouais. Et moi j'imagine voilà, t'as dû avoir des problèmes similaires. voilà, genre de moment tu te dis, t'es au plus bas, tu te dis mais c'est pas possible. Et là vraiment c'était compliqué parce que je sais très bien que ce moment-là j'étais au bas, j'en discute, j'en parlais avec mes proches etc. Et surtout qu'il y a un peu ce truc-là où tu réfléchis et comme t'entreprends tu te dis mais en plus je me l'inflige tout seul. Tu dis mais à la base en fait si je faisais pas de production tranquille, bon après évidemment si tu fais rien il se passe jamais rien, tu vois,
c'est clair,
faut prendre des risques, faut avancer etc. Je comprends mais ça a été dur franchement psychologiquement. Ouais. Ce moment là ça a été un peu un gros down, j'ai eu du mal à me relancer et je crois que si je dis pas de bêtises c'est par la suite que comme quoi le moment était au plus bas tac, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'ai fait le clip d'Offenbach je crois dans les mois qui ont suivi, tu vois,
c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que
ouais non bien sûr tout n'est pas tout rose, ouais,
les downs, les moments de doute, les moments difficiles, ça fait partie du jeu. Et c'est aussi dans ces moments qu'on apprend. Non, on s'en passerait bien, exactement. Mais malheureusement, je crois qu'il y a personne qui n'en a pas, tu vois.
Ouais, bah bien sûr, parce que ce serait trop facile.
Sinon, ouais, le
jeu. Ou alors,
jeu...
faut nous donner la recette. Franchement.
c'est clair. C'est quoi le cheat code?
Oba, très bien.
Rosebud, pour ceux qui ont la ref. c'est quoi le moment le à l'inverse, le moment le plus marquant positivement de ton aventure?
Waouh, le moment le plus marquant, j'en ai eu beaucoup.
T'es obligé de m'en citer qu'un.
Je vais en citer qu'un, donc du coup, jusqu'à présent, je dirais quand même le moment le plus marquant, je pense, c'est le tournage avec Big Flo Oli, je pense. Parce que ça réunit pas mal de choses, ça a été un tournant pour moi dans ma carrière de jeune réalisateur, pour pouvoir commencer, comme je disais tout à l'heure, comme je l'évoquais, de pouvoir commencer à travailler et collaborer avec des sociétés de production, commencer à être rémunéré aussi de la réalisation, et surtout que je l'ai pas trop évoqué, c'est vrai, dans tout notre échange, mais je collabore beaucoup avec des amis. Je travaille beaucoup avec beaucoup des gens qui m'entourent, qui de près ou de loin, qui sont à la fois des rôles plus importants, on va dire, d'un point de vue hiérarchie, si je puis dire, sur des tournages, que des petites mains, etc. et tout. Bah en fait, c'est que des amis, enfin pour beaucoup, enfin pour la plupart. Et le Big Flo Oli, du coup, ça a été un peu un moment où c'était un peu une consécration. On était vraiment beaucoup d'amis sur le tournage, et c'était un peu le moment où on s'est tous dit ça y est, on a fait un projet qui a de la gueule, qui fait qu'aujourd'hui on peut dire je suis chef électro, je suis chef opérateur, je suis réalisateur, je suis chef machinot, parce qu'on a eu un peu le déclic. C'est toujours un peu compliqué, on me disait toujours avant en mode depuis quand tu te considères réalisateur, je suis en mode ah, ça tu choisis pas, c'est un moment où t'as un déclic, tu te dis bon bah là j'ai fait 3 clips, maintenant je suis pas réalisateur, 3, 4, 5, 6, puis là maintenant j'ai fait tous ces clips là et j'ai fait Big Flo Oli, puis j'ai fait ça, puis il y en a lui qui a fait un, ah je commence, et puis du coup c'est une question de prise de, enfin ouais, d'avoir confiance en soi et d'avoir pas trop le syndrome de l'imposteur, et puis après bien sûr. Ça évolue,
ça se corrige au fil
et voilà
du temps.
Je dirais, je pense, ce projet là qui était vraiment chouette à tourner, qui était une super, super équipe et une très belle expérience aussi en début de carrière, quoi.
Ouais, de ouf, trop cool, trop cool. Et moi je me souviens avoir vraiment bien streamé le clip, j'avais vraiment adoré quand c'était sorti. Et ce qui est drôle, c'est que quand Lucas m'a recommandé ton nom, quand je suis allé voir ton profil Insta, j'ai vu j'ai un post qui je pense était sur le clip, et je me suis dit ah putain, c'est marrant, c'est lui qui a réalisé le clip de C'est pas bien, tu vois. Donc voilà pour l'anecdote. il me reste deux petites parties sur le podcast. La première, c'est sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, et avec quelques petites questions. Est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Je sais que des rencontres, il y en a plein. Est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier?
Waouh.
Question difficile.
C'est très très dur, hein, parce que là j'ai eu direct 5 ou 6 noms qui qui ont marqué mon aventure. Mais en fait, c'est toujours très compliqué de choisir une personne. Je pense que je vais donner une rencontre qui est aujourd'hui avec qui je collabore. Je t'en ai parlé tout à l'heure, je dirais Jordan Aléphalos, qui est du coup un réalisateur aussi. Et elle a marqué mon aventure parce que c'est assez intéressant justement, et j'étais avec lui justement en tournage avec lui en début de semaine, et c'est quelqu'un que je connais depuis 6 ans, qui est devenu aujourd'hui, qui fait partie de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est un réalisateur vraiment très talentueux, qui fait de la publicité, et il fait de la fiction, du documentaire. Il a travaillé avec vraiment pas mal de gros artistes d'un point de vue documentaire, et là il a suivi la section d'Assaut justement sur leur tournée l'année dernière. Il fait vraiment des beaux projets. Et ce qui est très drôle, pourquoi ça a marqué mon aventure, c'est parce qu'avec lui on s'est rencontré il y a 6 ans sur un festival de court métrage. On a fait un concours de court métrage en fait, où on était des rivaux, on était opposés, et on a fini les 2 premières places en fait avec lui. Et donc là le soir, du coup il a gagné, je l'annonce quand même, il a gagné malheureusement. Et du coup c'était très drôle. On est allé dans un bar, on a échangé, on est vraiment devenus très amis. Sauf que on aspirait tous les deux à devenir réalisateurs. Et comme là je sortais tout juste d'école, il y avait un peu un point de vue de c'est cool, mais je pense indirectement tout le monde, surtout quand t'es en école, on a envie de mettre en opposition tous ceux qui veulent devenir réal, en opposition tous ceux qui veulent devenir comédien, tous ceux qui voilà. Et du coup c'est un peu un instinct de sortie d'école, je sais pas pourquoi tout le monde fait, enfin ça se fait naturellement. Et donc du coup pendant les premières années on était un peu moins proches parce que il avait sa carrière, j'avais la mienne, on était très potes, on se voyait, mais on voyait pas comment on pouvait s'apporter l'un à l'autre, etc. Et en fait, on s'est rapprochés d'année en année avec d'autres amis. Et aujourd'hui, tu vois, ce qui est drôle, c'est que ça a marqué mon aventure parce que du coup, lui, il me l'a suivi du tout début de projet quand j'étais étudiant. On s'est rencontrés, j'étais étudiant, et aujourd'hui, il a fait sa carrière. Et j'ai fait la mienne, et aujourd'hui on se recroise parce qu'aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, on écrit ensemble. Et en fait aujourd'hui de passer comme des gens qui nous présentent presque comme des personnes qui sont en opposition, etc. Aujourd'hui en fait on travaille ensemble et on est en train d'écrire un projet ensemble. Et donc du coup c'est vraiment quelqu'un qui marque mon quotidien, qui est quelqu'un de très proche, qui quand je suis dans des moments de doute dont je te parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un avec qui je pourrais me confier en mode putain c'est compliqué, je vais lâcher, et qui lui va me donner l'énergie d'aller de l'avant, de rester en mouvement. Moi, c'est pas le moment de rester dans ton canapé, let's go, vas-y on va faire des projets, le chemin il est dur. Mais ça va le faire. Et du coup, c'est quelqu'un qui en tout cas marque mon quotidien. Il y a plein d'autres personnes évidemment, mais
Bien sûr.
Aujourd'hui, je dirais Jordan.
T'avais pas le choix, donc.
Franchement, moi, si je te disais une personne là,
je pourrais pas. Moi, je pose les questions.
Non, mais. Reverse.
Ouais, reverse. Ça peut arriver à la fin du podcast. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre? Est-ce qu'il y a ce côté entourage aussi qui est très précieux?
Bien sûr. Pour moi, c'est même
la base.
C'est même la base, ouais. Je pense entreprendre sans avoir un bon entourage. Moi, je le disais tout à l'heure, je suis super fier d'avoir eu la chance d'avoir une famille déjà qui m'accompagne. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui la soutient. Si t'as pas la famille, il faut au moins avoir un bon entourage, des bons amis qui croient en tes projets, qui vont savoir te dire quand c'est mauvais. Parce que ça c'est ce qu'on appelle des amis, tu vois. Genre, ça m'est arrivé moi que certains de mes amis, genre je fais un projet, je suis trop content, je vais aller leur montrer, ils me font t'aurais pu faire mieux. Comment ça? T'as vu le temps que j'ai donné? Mais moi le temps je le vois pas, hein, quand je vois le résultat fini, et bon c'est pas mal, mais bon, on peut mieux faire quoi. Ouf, c'est dur, ça fait mal à l'ego, mais quand
nécessaire.
Tu prends du recul et avec les mois vraiment, genre tu par la suite tu dis mais merci. Merci d'avoir été sincère, tu m'as fait grandir, etc. Donc évidemment, oui, la clé, c'est les deux choses qu'on a pas mal dit pendant le podcast, c'est l'entourage proche, vraiment s'entourer de bonnes personnes bienveillantes avec qui on peut évoluer, avec qui on peut échanger, qui sont à l'écoute et en même temps qui sont aussi intéressantes et qui vont partager aussi leur expérience, parce que c'est en se nourrissant aussi des autres qu'on avance, et en restant en mouvement. Voilà, en restant en mouvement, en faisant des projets et en allant rencontrer de nouvelles personnes. Je pense qu'il faut pas rester, malgré le fait d'avoir, même si on a un beau cocon, moi aujourd'hui, je pense avoir vraiment un très très bon entourage, des gens très proches avec qui je m'entends très bien, qui aujourd'hui sont dans des milieux très différents. Certains sont full entrepreneuriat, justement, ils sont en train de monter des boîtes, etc. et tout. Et bah tu vois, je peux même prendre l'exemple du coup que t'as reçu Valorant, tu vois, Valorant que j'ai rencontré maintenant il y a 3 ans, qui sont des gens que j'aime beaucoup avec Antonin, et voilà, on se croise assez régulièrement, et voilà, ils sont vraiment dans l'entrepreneuriat, ils montent le crayon média, etc. Bon, c'est comme lié un peu culture parce que c'est quand même un média, etc. Mais à côté, ils ont vraiment toute la partie qu'ils ont montée avec leur
le
groupe, le crayon, et à côté, bah d'autres amis justement qui sont plus sur les réseaux sociaux, Lucas que t'as reçu, Rouillé justement sur les réseaux sociaux, le digital, et des amis bah comme Jordan, comme des Victor Apchi par exemple, oui, ou des Guillaume Coud justement qui font de la création de contenu, qui sont très talentueux dans ce qu'ils font, et du coup c'est très important justement d'avoir un bon entourage justement qui va pas être non plus trop de niche, parce que sinon tu te mets toujours à parler des mêmes sujets, tu t'enroules dans un truc, mais faut continuer toujours de rencontrer de nouvelles personnes.
Exactement.
Il y a peut-être la prochaine rencontre, la rencontre d'une vie, ça se trouve, elle n'est pas encore arrivée.
J'espère.
J'espère. Parce qu'en se motivant comme ça, bah, si la rencontre, elle est plus tard, let's go.
Ouais, je suis très aligné avec ça. La dernière question de cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso? Et est-ce que tu le relis? Parce qu'il y a plein de gens qui le font pas du tout, hein. La grande majorité ne le fait pas, en fait.
Ouais, bah, relier pro et perso, le problème, c'est que, comment les deux sont reliés? Bah, les deux ne font qu'un. Ouais, les deux ne font qu'un. Comment je relie les deux? Ouais, c'est très compliqué. Évidemment, ouais, bah, je vois, je vais être honnête, les deux sont liés, parce que trouver la frontière entre je vais au cinéma pour moi m'enrichir professionnellement ou je vais au cinéma pour me divertir, bah les deux. J'écris pour me faire kiffer d'un point de vue loisir ou j'écris d'un point de vue pro. La seule différence, c'est que je vais être payé, donc c'est pro, mais en même temps, c'est le genre de projet que j'aurais pu faire si j'avais un autre métier, on va dire plus traditionnel, si j'avais un CDI dans une boîte, etc. Bah, c'est le genre de projet que j'aurais pu faire sur mon temps libre. Donc évidemment, les deux sont vraiment étroitement liés, mais j'essaye quand même de plus en plus, en tout cas, de me donner des grâce à mon entourage aussi, de me donner un peu le temps de faire pause, que je suppose c'est pareil pour toi, c'est quand tu fais pause que tout le monde pense que tu fais pause, en fait ça cogite là-haut,
bien sûr,
et ça avance, et pendant que tout le monde est à la piscine, t'es sur ton transat, t'es sur ton téléphone et tu marques 2 idées parce que l'autre il a sorti une blague à machin et tout, et en fait tu dis ah ça pourrait faire un bon sketch machin, mais c'est du off qui est pas voilà, on travaille tout le temps, mais c'est vrai que le mot travailler tout le temps, et des gens ils sont en mode ils passent à côté de leur vie et tout, c'est pas néfaste, parce que en fait quand on dit travail, c'est comme si on disait en fait on joue tout le temps, quoi, parce que le travail pour moi c'est du loisir. Aujourd'hui moi faire de la création, créer des projets, vraiment imaginer, concevoir une émission ou quoi, c'est vraiment vraiment du plaisir, quoi. Donc faire ça au quotidien, voilà, je travaille tout le temps, mais de manière
ouais. Surtout dans des métiers créatifs, les temps off, t'es toujours en...
chaque instant de vie, en fait, peut te nourrir.
Ton cerveau, il n'y a pas un bouton off, tu vois, genre, c'est pas possible. Et tant mieux d'ailleurs. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, avec quelques petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Ah, très bonne question. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je m'écoute. Je m'écoute beaucoup. Et je fais beaucoup d'introspection. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je fais de l'introspection dans le sens où j'essaie, bah justement, les deux sont liés. Enfin, je m'écoute. Du coup, parce qu'on, c'est vrai que j'ai un gros problème, comme beaucoup de personnes dans ce milieu et dans tous les milieux en fait d'entrepreneuriat et de soirée, on a vite accès en fait à pas mal de privilèges. Tu vois, on est quand même, j'avoue quand même, d'avoir une vie quand même plutôt de privilégié aujourd'hui, d'être invité à beaucoup d'événements, etc. Et d'être invité à beaucoup d'événements, ça veut dire aussi naturellement recevoir qui se tombe en même moment, etc. Et donc le fameux FOMO arrive sur la table. Et aujourd'hui, pour aller mieux, je m'écoute. Il y a une période vraiment où j'enchaînais, ne serait-ce que l'année dernière, le mois de juin, je me souviens que c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que le mois de juin de l'année dernière, de tout le mois de juin, sans exception tous les jours, j'étais tous les soirs en événement, et je faisais même des doubles événements, tu vois. Genre, j'ai fini à l'un, j'allais à l'autre, et aujourd'hui, maintenant, ça, c'est pas que je me l'interdis, pas du tout. Si j'en ai envie, j'y vais. C'est juste que ce que j'en ai retiré de ça l'année dernière, c'est que c'est trop cool de mettre la story, machin, t'es sur un rooftop, et puis là, t'es la soirée de telle marque, et de telle marque, et de tel réseau social, etc. C'est cool, mais c'est pas ce qui va te faire avancer, et quelquefois, ce qui te fait avancer, c'est d'être chez toi, focus sur ton projet, et d'être avec tes amis quelquefois, d'avoir du bon temps. Et donc, du coup, je m'écoute beaucoup, et maintenant, ça m'arrive, bah, par exemple, j'essaye d'être plus tranchant, même si je dis ça, j'ai fait ça la semaine dernière, je fais encore une double soirée, mais par exemple, j'essaye de, si j'ai 2 ou 3 soirées sur le même soir, bah, j'essaye de choisir. Sauf si, bah, la semaine dernière, du coup, j'ai un contre-exemple où je l'ai fait, mais si je le fais, c'est que vraiment, j'y vais dans un but où je sais que j'ai envie de faire les deux. Je me dis, là, j'ai vraiment envie d'aller faire les deux, donc je fais le début de soirée à un endroit, je vais à l'autre, parce que j'ai des amis qui sont aux deux, parce que aussi ce problème-là, c'est que maintenant, aujourd'hui, t'as des copains qui sont à toutes les soirées. Mais voilà, je m'écoute beaucoup.
Très clair, c'est une bonne réponse. Enfin, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, mais je suis assez d'accord.
Ça marche plus ou moins.
Exactement. C'est quoi ton plus grand rêve?
Bah le cinéma, hein. Le cinéma, hein. Mon plus grand rêve, je pense.
Est-ce que c'est un César? Est-ce que c'est...
Non, je crois que je suis assez détaché des récompenses.
Ouais.
Évidemment, demain tu me donnes un César, je le prends. Tu m'en donnes deux, je le prends. Tu me donnes une Palme d'Or, je la prends. Évidemment.
C'est dans un coin.
Évidemment, je vais pas non faire le type. Évidemment.
Mais c'est pas une finalité.
Juste, c'est pas une finalité parce que je me suis en fait j'ai été un peu dégoûté de toutes ces d'avoir été proche un peu de toutes ces cérémonies, d'avoir vu un peu comment on se passe aussi quand on voit les Energy Music Awards, les victoires, etc. Et de voir que c'est un monde qui est en fait c'est un peu quand même. Ça m'a déçu, en fait. Beaucoup de festivals que j'ai commencé à faire, et même là, aujourd'hui, j'ai des amis qui commencent à être des jurys de festivals, etc., et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de copinage là-dedans, etc., et que c'est pas parce que t'as pas eu de César que t'es pas un grand artiste ou t'as pas fait des bons films, etc. Exemple clair que de réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Eric Toledano et Olivier Nakache. Si je dis pas de bêtises, ils ont déjà été nominés au César, mais ils ont jamais eu, je crois, si je dis pas de bêtises. Et typiquement, genre, alors que eux, voilà, ils ont fait quand même des films qui parlent à tout le monde, qui sont vraiment, voilà, il y a des films qui sont très très cool qu'ils ont fait. Il y a plein d'autres réalisateurs et réalisatrices qui ont fait des projets qui sont complètement fous. Cette année, je vois typiquement Anatomie d'une chute a eu le César. Vraiment bravo parce que c'est un très beau film, mais à côté il y avait Je verrai toujours vos visages qui
incroyable.
Moi personnellement
incroyable.
Est un
ouais,
est un
ouais.
film
ouais.
nécessaire de société qui n'est pas pesant comme certains films. Je sais qu'il y a des films qui sont moins grand public. Je trouve que lui il arrive à toucher quand même son grand public. Je pense que peut-être qu'il est déjà passé en télévision, mais je pense qu'il ferait des bons scores dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui touche.
Ouais.
Et ça n'est pas pour autant que la réalisatrice n'est pas une très grande réalisatrice parce qu'elle a pas lu César. Donc c'est pour ça que je suis un peu décorrélé de ce truc-là. Évidemment, si demain je peux y participer, si demain je peux avoir un prix, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mais sinon non, vraiment, moi mon plus grand rêve, ça serait de faire un film, un long métrage qui soit bien distribué, vu surtout. Parce que faire un film de long métrage, ça me plairait. Si c'est faire un film pour qu'il fasse 30 000 entrées, parce qu'il est peu distribué ou que je l'ai fait un peu, moi c'est vraiment mon gros plus grand rêve, c'est vraiment faire un film et qu'il puisse aller atteindre son public. Après que le public l'aime ou pas, déjà je ferai un film pour moi, donc le but c'est qu'après que ça touche le plus de monde possible. Mais ouais, ça serait vraiment plus grand rêve. Et si possible. Avec des amis, mais ça, je pense que oui, dans mon équipe,
bien
évidemment,
sûr.
J'aimerais que ça soit accompagné des amis qui m'accompagnent depuis toujours. Mais bon, ça devrait couler de sens, je pense.
Ouais, exactement. C'est quoi ta plus grande peur?
Ma plus grande peur. Ah! Non, avant les podcasts comme ça, il faudrait que je m'entraîne à répondre à toutes ces questions-là. Ma plus grande peur, bah, je pense, c'est lié à, comme je disais, la chose la plus importante à mes yeux, et je pense dans la vie, c'est d'avoir un bon entourage. Donc, je pense que ma plus grande peur, ça serait de perdre mon entourage proche, en tout cas. De perdre la confiance de mon entourage proche, ou tout simplement de les perdre de vue, quoi. C'est vraiment ma plus grande peur, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui te stabilise dans ta vie aussi, tu vois, et qui est important. Donc, ouais, je pense que ça serait ça. Je pense,
c'est quelque chose qui...
Perdre des amis proches et même des proches, quoi.
C'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Donc, forcément, c'est une peur qui est importante.
Mais au-delà de la mort, tu vois, aussi. Genre, au-delà de perdre il y a des choses que tu peux un peu plus contrôler, quelquefois, qui sont juste de l'ordre du relationnel. Ouais. Et perdre, je pense, des proches, peut-être par, tu vois, genre, c'est peut-être le truc qui me ferait peur, c'est genre, je sais pas, par, maladresse peut-être, tu vois,
ouais.
Genre, blesser quelqu'un sans s'en rendre compte et en fait t'éloigner et en fait ça m'est arrivé avec quelques amis quelquefois des mauvaises interprétations et suite à des dialogues évidemment tout redevient tout découle par la suite, tu vois, mais je me dis c'est un jour je sais pas, il y a juste un problème de compréhension ou quoi, c'est un truc qui me ferait peur, genre de me dire même si je suis beaucoup dans la communication, j'aime beaucoup dialoguer, c'est un truc, ouais, je pense que ma plus grande peur ça serait voilà, de perdre des proches. Décès ou j'espère pas du tout, mais surtout même juste éloignement, quoi.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Un livre à te conseiller? Un livre à te conseiller. J'ai lu pas mal de livres super intéressants en plus dernièrement. Il y a un livre que j'ai adoré. Je peux t'en donner deux?
Bien sûr.
J'ai un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller. C'est un livre super intéressant qui parle tout simplement de comment on est en tant qu'être humain et comment en fait la société un peu fonctionne. C'est vraiment un peu, c'est de la socio, un peu genre de comprendre en fait voilà comment l'être humain il est, comment de par ses origines en fait on évolue, comment on réagit, comment par nature en fait, on parlait tout à l'heure tu vois de se comparer aux autres, bah ça c'est naturel, c'est de l'humain, de pourquoi, d'où ça vient. Et il est super intéressant, je le recommande vraiment parce que vraiment il permet d'apprendre, tu vois, ça relie aussi ce que j'ai pu dire à la fin sur le fait que je m'écoute beaucoup. Bah en fait en comprenant un peu comment tu fonctionnes toi en tant qu'être humain, le fait que d'avoir toujours l'envie à l'information, d'avoir toujours l'envie d'ascension, d'avoir toujours l'envie, bah tout ça c'est lié par plein de choses, la dopamine, etc. Tu vois, il y a plein de choses et du coup ce livre-là traite d'un peu tout ça. C'est super intéressant. Ça parle aussi d'écologie, de comment va le monde et pourquoi on pourrait ne pas le résoudre et comment on pourrait potentiellement résoudre ce problème-là parce que lié à notre façon d'être, le fait que certaines personnes n'en auront rien à faire. Et ça restera comme ça, malheureusement, parce qu'ils sont matrixés, ils sont bloqués là-dedans, etc. Très intéressant, je recommanderais lui. Et là, il y a un deuxième livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle Factfulness. Je sais pas si tu connais l'auteur, je sais plus exactement. C'est un livre, en gros, c'est, je sais plus comment c'est, l'art de raisonner par les faits. Et en fait, c'est un livre qui est très optimiste sur la vie d'aujourd'hui. Parce qu'on a c'est vrai qu'aujourd'hui, si on lit les journaux, si on écoute vraiment les médias, tu vas entendre du négatif, mais à longueur de journée, c'est épuisant. Et alors qu'en réalité, on pourrait donner plein de nombreuses bonnes nouvelles et tout ça basé sur des faits. Et en fait, l'auteur de ce livre-là a récupéré en fait plein d'analyses, de plein d'études, plein de chiffres, etc. et tout, de données qu'il a toutes mises dans un livre. Et donc, du coup, ça te fait raisonner par les faits. Et donc, du coup, ça explique beaucoup de biais cognitifs qui sont exploités par les médias aujourd'hui pour le fameux putaclic ou ne serait-ce que pour créer des clivages, etc. Et il est super intéressant, vraiment, je le recommande parce que du coup, ça va mettre en avant que on n'arrête pas de dire que il y a pas de progrès dans tel domaine. Mais si on regarde clairement par les chiffres, il y a du domaine, c'est juste que maintenant, on a zoomé sur ces chiffres-là, et plus on zoome, plus forcément ils s'éloignent, et plus il y a de l'écart. On dit qu'il y a des problèmes de tel ou tel, ça va être de la nourriture dans le monde, la démographie dans le monde, etc. Et en fait, tout est basé sur des chiffres. Et du coup, c'est super intéressant parce que du coup, c'est vraiment l'envie de ce livre-là, c'est de donner en fait une façon logique de raisonner par la suite que par les chiffres, en fait, par des choses qui sont factuelles, en fait, et pas faire que des on-dit de choses qui quelquefois en plus vont toujours être tournés de manière un peu négative parce que en tant qu'être humain on aime le drama et on va être attiré d'entendre quelque chose de dramatique, ah machin dit un tel machin et du coup ah il y a beaucoup de morts là-bas etc et il y a un truc qui nous excite là-dedans et qui fait que les gens consomment et du coup ce livre je le recommanderais beaucoup parce que vraiment il est très intéressant franchement et ça fait il fait plaisir aussi, il fait du bien. Bon, il y a des données qui sont encourageantes sur certains points.
On intégrera ces deux recours en description. On le fait à chaque fois, et à chaque fois c'est très cool justement d'avoir une diversité de contenu, tu vois, en termes de recommandations. Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller?
Un film ou une série? Un film ou une série? Non, je recommanderais vraiment une série du coup sur Canal qui est Le Bureau des Légendes. Je sais que j'ai découvert cette série, elle m'a vraiment impressionné. J'ai été captivé. Je trouve la force d'écriture. Enfin, presque il faudrait que je la revoie cette série parce que vraiment, il y avait une écriture. J'étais pris dedans, mais vraiment. Et je la trouvais intéressante. Il y avait vraiment plein d'enjeux en plus de géopolitique. On rentrait dans un univers qui n'est pas connu vraiment. Tu vois, genre vraiment d'avoir les espions, etc. Avec Mathieu Kassovitz du coup en plus qui jouait dedans justement et qui interprète super bien justement l'un des membres espions etc. enfin qui est envoyé en mission justement à l'étranger, vraiment très intéressant. Oui, je recommanderais vraiment cette série si vous l'avez pas vue vraiment. Si tu l'as pas vue, je sais pas si tu l'as.
Écoute, on me l'a déjà recommandé, j'ai pas encore sauté le pas.
Ouais, non. Donc, franchement je
l'intègre dans ma to-do.
Je recommande franchement, j'avais très apprécié cette.
C'est assez drôle, t'en as parlé il y a quelques minutes, la question reverse existe vraiment.
Ok. Ah, c'est marrant, je l'avais regardé, je m'en souviens pas.
C'est une question que j'ai rajoutée l'année dernière, l'été dernier. Du coup, tu prends le rôle de host pour une seule question.
Pour une seule encore.
Un seul crédit. y a-t-il une question que tu aimerais me poser
Attends, vas-y, faut que je choisisse bien. Par rapport à tout ce que t'entreprends jusqu'à aujourd'hui, je suppose du coup tu dois être fier de tout ce que t'entreprends, mais est-ce que il y a une chose qui ne fait pas partie de ce que t'entreprends aujourd'hui que tu aimerais faire demain, qui n'a rien à voir avec les podcasts justement, etc. Est-ce qu'il y a une autre chose dont tu rêverais d'entreprendre là-dedans, dans ce domaine, ça peut être un domaine, un secteur où tu kifferais, même ça peut être artistique, te lancer, où t'as jamais eu l'occasion d'aller vers là, parce que pour l'instant, bah, le chemin a fait que tu en es là aujourd'hui et très heureux, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça serait?
C'est une très 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 bonne question. J'y réfléchis souvent, tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Globalement, je suis très curieux et je suis pas focus sur un domaine, tu vois. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Il y a quelque chose qui serait qui dans un coin de ma tête qui serait de faire du stand-up.
Oh.
Donc faire des comedy clubs, tu vois.
J'adore. Ok. T'en as déjà fait?
Non.
Ok.
J'ai déjà fait du théâtre pendant plusieurs années. J'avais trop kiffé du théâtre d'impro.
Très différent le stand-up.
Très différent.
J'en ai fait un peu, moi.
Ok.
Je suis plus jeune, mais j'ai arrêté sur un bide. Enfin, plusieurs bides même. Mais okay. C'était très dur. Mais ouais. C'est ah, très drôle.
Donc, il y a potentiellement ce domaine-là.
T'as déjà écrit un peu?
Ouais. En fait, je sais pas si tu... En 2021, il y a eu un réseau qui avait explosé qui s'appelait Clubhouse.
Ouais, monsieur.
Et du coup, il y avait des rooms, des comedy rooms.
Ouais.
Et du coup, je commençais à écrire. J'avais participé à une comedy room et ça avait plutôt bien marché, tu vois. Et en plus, c'était des comedy rooms où, à certains moments, tu retrouvais Jamel Debbouze, enfin, tu vois, des personnalités qui popaient dans la room comme ça, jusqu'à monter sur scène.
Ouais, bien sûr, ouais. Des gens reconnus digital, dans le milieu, vois, qui venaient dans ces comedy.
Et du coup, j'avais grave kiffé cette période. C'était assez court, parce que globalement, Clubhouse en France, ça avait explosé sur 2 mois, tu vois, donc c'était assez court. Et après, les gens avaient repris les vrais comedy clubs.
Ouais, tout à fait, ouais.
Mais c'était une expérience qui m'avait, que j'avais kiffé.
D'accord. Okay. Et là, du coup, t'as des textes en stock un peu pas du tout, non?
Bah, depuis 2021, non, tu vois, sur mon app note, je dois avoir quelques notes où j'avais écrit des trucs que j'avais à raconter, tu vois, à l'époque.
Trop bien. Mais qu'est-ce qui fait, du coup, que t'y vas pas?
Manque de... Alors, temps, c'est une fausse excuse, hein.
Ouais, le temps, mais évidemment, réalité, on choisit le temps, mais oui, aujourd'hui.
Oui, parce qu'on met des
priorités. C'est des questions de priorité, exactement. Ouais.
Okay. Mais peut-être qu'un jour, effectivement, tu vois, aujourd'hui, j'ai 27 ans, globalement.
Oui, la vie est longue, hein, on a le temps de...
Voilà, c'est des
on
choses
a plusieurs
qui peuvent,
vies, on a le temps de...
qui peuvent arriver. Et après, sinon, il y a un autre métier, potentiellement, ce serait d'ouvrir un café, quelque part. Genre, au bord d'une plage, tu vois.
J'adore. Tu sais que ça fait... Si tu m'avais posé exactement cette question-là, j'ai cette réponse-là aussi.
Voilà.
Avec ma copine, on a parlé souvent de faire un coffee shop ou quoi que ce soit. Et
exactement.
Parce qu'on adore déguster le café, etc. Et j'adore, c'est très drôle ça.
Exactement le même délire.
C'est un ces trucs improbables. Tu sais, t'es là dans un podcast, où on fait des podcasts, l'audiovisuel, coffee shop. Ah, trop drôle, ok.
Ouais, non, mais tu vois, un truc terre à terre, où tu rencontres des gens, où t'as un lieu...
Café, pourquoi le café, du coup, ce serait...
Alors, quand je dis café, c'est aussi bien sur la partie café. Effectivement, je suis ultra amateur de café, mais café, ça pourrait être aussi des cocktails. Enfin, tu vois, un mix de...
Ça pourrait être un café-bar, quoi. Un café...
Ouais, exactement.
Ok.
Mais dans un lieu hyper stylé, qui un vrai du cachet, tu vois, qu'on réaliserait de A à Z,
un
tu vois,
lieu
en
de réception,
de design d'espace, etc. Et c'est marrant parce que c'est un truc dont on discute avec ma copine, tu vois. Donc c'est peut-être un projet qui arrivera dans les 5-10 prochaines années à voir.
Peut-être s'associer et faire un truc tous ensemble. mais j'adore, c'est très drôle, ok.
Et tu vois, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
Et c'est un projet que les deux, tu comptes vraiment les faire ou tu...
Moi, je suis très coup de tête. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans la vie, c'est sur des coups de tête. Donc, si je le fais, ce sera sur un coup de tête et ça peut arriver.
Tu penses et si demain, tu te dis, là, c'est le bon moment.
Exactement.
C'est que c'est le bon moment.
C'est ça. Voilà.
J'adore. Trop bien.
Donc, c'est une très bonne question. Merci pour ça.
J'en ai profité. J'en ai fait un peu plus que une.
Tu voudrais faire des podcasts.
J'ai continué comme ça. Je me suis dit, let's go. Non, c'est très intéressant.
Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Entrepreneur au sens large du
Ouais, large bien sûr. Alors je vais essayer de rester dans le domaine un peu artistique quand même. Ah si, bah si, j'ai un entrepreneur avec qui j'ai pas mal échangé dernièrement et que j'espère que tu l'as pas reçu. Victor Apchi
du guide ultime. On connaît bien Nora son associé.
À la fois un entrepreneur, ouais, tout à fait, Nora, avec qui j'ai collaboré justement avec Slick sur qu'on avait fait le projet avec Bastos à l'atelier des lumières et je te recommanderais Victor Apchi parce que c'est vraiment quelqu'un, avant d'être entrepreneur, qui est un bel humain, franchement, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment très bienveillant et qui est artistiquement très bon. Et qui à côté a monté le guide ultime, cofondé le guide ultime.
Dingue.
qui est bah aujourd'hui
voilà, ils ont fait leur levée de fonds
sur M6
avec voilà, Jean-Pierre Nadir et Tony Parker. Voilà, bah trop bien, ça avance bien le projet, bah le média est super cool. Il met en avant plein de bons plans de food et du coup c'est un très bon entrepreneur, mais c'est très drôle, on a beaucoup de discussions avec lui justement de d'entrepreneuriat sur le fait de bah justement quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, enfin du coup naturellement tu vas commencer à avoir la casquette de patron, tu vois, et nous ces sujets là qu'on a ensemble, c'est que lui il est très artiste aussi quand même, Victor, et c'est un artiste avant tout même, je dirais, et du coup c'est drôle parce qu'il a un peu on a des questions un peu similaires où j'ai un mode jusqu'à où t'as envie d'aller d'un point de vue société, créer quelque chose à côté, parce que du coup forcément quand tu donnes du temps dans une entreprise, dans une boîte, etc., bah c'est du temps que tu donnes en moins sur ta création aussi à côté.
Bien sûr.
Bien que bah moi de mon côté, comme ma société est une société de production, les deux sont un peu liés, comme mon média à côté qui est aussi lié. Mais ouais, je te recommanderais Victor Hapchi. Franchement, okay, je pense que vous auriez plein de choses à vous raconter.
Bah écoute, je le connais pas, mais je note. Enfin, je le connais de. Je l'ai déjà en visu. Bien sûr. Bien sûr,
grand plaisir de vous mettre en relation. Et
en tout cas, Nora, je sais que elle est ultra talentueuse. On avait produit un podcast,
Nora, ouais.
Un podcast où elle était passée en tant qu'invitée, qu'on avait tourné l'année dernière. Et du coup, on l'avait rencontrée à ce moment-là, et franchement, incroyable. Ouais. Donc, ça m'étonne pas que Victor soit incroyable aussi.
Ouais, bien sûr. Et s'ils sont associés, du coup, voilà. Mais c'est vrai que moi, je connais moins Nora. Du coup, je connais plus Victor. Nora, j'ai juste collaboré avec elle via l'intermédiaire du slip. Du coup, ouais. Mais voilà, du
top.
Coup, ça m'étonne pas.
Trop cool. Dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Ta définition.
La définition d'une ou un entrepreneur.
Ça peut être en une phrase, ça peut être en un mot, ça peut être en 12 paragraphes.
je dirais tout simplement que c'est des personnes qui font. Voilà, qui font, qui produisent, qui créent. Voilà, ça c'est pas forcément je sais que il y a pas mal de souvent on va souvent lier entrepreneur avec le fait de viser la start-up puis éventuellement la licorne, et souvent très vite corrélé à des chiffres et du coup scaler et tout de suite tu vois faire beaucoup de salariés et devenir une multinationale, etc. Souvent c'est vrai que c'est pas mal lié, moi je le vois pas du tout sous ce prisme-là. Pour moi c'est les gens qui créent. Alors, ça va être des gens qui créent chez eux tout seuls, parce que c'est voilà, entrepreneur, il y a les solopreneurs justement, il y a plein de gens qui créent leur boîte seuls, etc. et tout. Je suis solopreneur aussi. Et pour moi, ouais, c'est les gens qui font, qui créent et qui proposent des choses en tout cas, qui vont de l'avant et du coup qui se mettent naturellement en mouvement. Du coup, ouais. Pour relier la boucle.
C'est le mot de l'épisode. Écoute, je suis très aligné avec cette vision. C'est aussi la mission du podcast, de montrer toute la diversité de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que les startups, il n'y a pas que les levées de fonds. Ça représente un minuscule pourcentage de
ce
que
c'est. Tout le monde ne sait pas d'être tous les ans.
Exactement. Et l'entrepreneuriat, c'est hyper large. Les artistes sont des entrepreneurs, les créateurs sont des entrepreneurs, les sportifs sont des entrepreneurs, les stand-upers
sont
des entrepreneurs.
Après, pour moi, pas tous, du coup.
Par rapport à quoi?
Par rapport au fait que ça dépend quel prisme, mais je pense que du coup ça pourrait pousser le justement je me permets de couper justement là-dessus parce que tu vois genre je pense pas que tous les artistes sont des entrepreneurs. Genre parce
alors,
que
moi,
tu
moi
vois,
je vois le prisme entrepreneurial dans le fait d'être entreprenant. Donc en fait quand tu entreprends une œuvre quelle qu'elle soit, pour moi c'est de l'entrepreneuriat.
Oui,
c'est pas
vrai.
Forcément relié avec
si je partage aussi ça
avec un revenu financier. Je pense que ça a été très dénaturé ces dernières années de entrepreneur, mindset entrepreneur, objectif billionnaire, machin chouette, etc. Moi, je suis pas du tout aligné avec ça. On peut être entrepreneur sans générer, tu vois, des sommes gigantesques.
Ouais.
C'est plus un état d'esprit et c'est vraiment le fait d'être entreprenant.
Ça, je partage. En fait, c'est juste que moi, je fais. Là, tu vois, j'ai des exemples un peu plus concrets, précis, tu vois, qui sont en mode de. Je pense que il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes qui sont en tout cas qui débutent sont tous des entrepreneurs parce qu'ils font beaucoup, ils créent. Là où je dirais que tous les artistes sont pas des entrepreneurs dans le sens où certains ont réussi à percer. Ils étaient entrepreneurs pour moi et certains sont tellement entourés aujourd'hui qu'en fait ils font de la musique, mais c'est presque une continuité et c'est plus dans le but de percer, de faire et tout. Et en fait ils ont délégué tellement de choses qu'ils ont plus la main vraiment sur leur projet. Et du coup c'est vrai que ça pour moi c'est, il y a des artistes qui sont vraiment en mode nous je suis un artiste maintenant, ils se laissent vivre en fait. Ils se laissent plus vivre qu'ils continuent de créer évidemment parce que maintenant c'est leur moyen de perdurer. Et c'est pour ça que du coup c'est le seul truc où je dirais que l'entrepreneuriat c'est le fait de faire, mais c'est de faire aussi beaucoup par pas par toi-même mais en tout cas d'avoir la main sur ce que tu fais aussi.
C'est peut-être une phase de vie.
Mais je, évidemment, peut-être que là, je dis ça aujourd'hui, ouais. Jeune, anniversaire 26 ans, boum, boum. Et dans 10 ans, je serai en mode, franchement.
Qu'est-ce que j'ai dit comme
moins j'en fais, mieux je me porte.
Écoute, Damien, ce seront les mots de la fin de l'épisode, épisode d'anniversaire. Encore très bon anniversaire, Damien.
Merci beaucoup.
On sera obligé de conclure là-dessus. On te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. J'espère que ça t'a
merci
plu.
Beaucoup. Toi aussi. Mais...
J'espère que toi qui nous as regardé, écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tes liens en description. Et puis bah voilà, que du kiff pour la suite.
Ben merci beaucoup, toi aussi. Hein.
Vous aussi. Merci beaucoup, Damien.
Mais merci à toi.